Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 5 du podcast Le Safety. Très heureux de vous retrouver avec une petite semaine de retard. Avec moi, fidèle au poste, libéré, délivré de ses contraintes de recherche universitaire, c'est Alan. Ça va Alan?
C'est ça, salut Ben, salut à tous. Ouais, on peut s'attaquer à la NFC maintenant. On a la tête à ça.
Ouais, maintenant qu'on est libéré, délivré, j'étais assez content de mon jeu de mots, voilà, je l'ai trouvé cet après-midi, j'en étais assez fier, j'étais obligé de le placer. Tu l'as justement dit, Alan est très heureux de te retrouver et de vous retrouver. On s'attaque à la NFC aujourd'hui pour la suite et la fin de notre petite série. Qui est la troisième meilleure équipe? On a fait l'AFC il y a trois semaines de ça. On vous invite à aller la réécouter. Place à la conférence nationale ici. Alors le concept, il reste globalement inchangé, même si on va voir qu'il y a quelques petites adaptations avec la conférence nationale. Déterminée. Qui complète le podium des favoris en NFC pour aller au Super Bowl. Avant de discuter de ça, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast, que ça soit Spotify, Apple Podcast, etc. Puis aussi le compte Twitter du Safety si vous ne voulez pas rater cette avalanche de tweets. Voilà, si vous êtes prêt à être spammé par un tweet par semaine, suivez-nous sur le compte Twitter du Safety. Nous, on marque une petite respiration, puis place à la question qui va nous guider aujourd'hui. Qui est la troisième meilleure équipe en NFC? Avant de déterminer qui est troisième, Alan, il serait peut-être bon de déjà annoncer qui occupe les deux premières places selon nous.
Ouais.
Alors, toi comme moi, on estime que les Saints de la Nouvelle-Orléans et les 49ers de San Francisco sont peut-être un petit peu au-dessus de la mêlée. Mais là, tout de suite, on est d'accord, Alan, on est sur un duo beaucoup, beaucoup plus discutable qu'en AFC.
Ouais, on est sur un duo plus discutable, je pense, avec les 49ers qui sont passés de avoir le deuxième choix de draft en 2019 à aller au Super Bowl avec le meilleur bilan de la conférence. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil qu'en AFC où tu avais les Ravens et les Chiefs qui étaient des équipes qui ont fait les playoffs plusieurs années de suite et donc qui se sont établies et qui en plus. On voit là maintenant les deux derniers MVP à la tête de leur attaque. Là, on a des Saints qui, on en parlait souvent tous les deux, on a dit dans l'épisode, ont peut-être le meilleur effectif de NFL. Et on a les 49ers qui ont enfin été en bonne santé, ont eu Jimmy Garoppolo sur une saison et qui voilà, sont passés de dernier à premier en NFL quasiment, en une année.
Ouais, totalement. Pour revenir un peu sur ce que t'as dit, moi j'ai un peu la sensation que la différence réside globalement dans le fait que Chiefs et Ravens ont ce que j'appellerais une double supériorité. Intrinsèque déjà, leur effectif est meilleur que le reste et ils profitent aussi de la supériorité par rapport à la concurrence. C'est-à-dire l'effectif est meilleur et face à eux, c'est faible. Là où selon moi, 49ers et Saints, ils peuvent juste se reposer sur leur niveau intrinsèque. La concurrence est bien meilleure, on en parlera d'après moi, la concurrence est bien meilleure en NFC, ce qui fait que, surtout pour les 49ers, comme tu l'as dit, parce qu'on a un échantillon de seulement un an, les discussions peuvent, je comprends parfaitement qu'on pourrait nous dire équipe A ou équipe B peut être meilleure que les 49ers. Je pense juste qu'ils ont déjà ce Super Bowl, ils ont un effectif qui revient globalement en entier, c'est-à-dire que je te parlais en off de cet article que j'ai vraiment saigné d'ESPN qui parlait des snaps qui reviennent, c'est-à-dire ils ont calculé le pourcentage de snaps joués en 2019 qui va être de retour pour l'année 2020, la saison 2020, et on voit que par exemple les 49ers se classent 4e et global 82% des snaps vont revenir entre guillemets et premier en défense où ils ont juste perdu un titulaire, c'est DeForest Buckner. Donc, ils ont quand même pour eux la stabilité.
Ouais, et puis en plus, si on veut peut-être même aller un petit peu plus loin, on se rappelle, on en avait parlé ensemble, la fin de saison 2017, celle où il y a Garoppolo qui arrive, ils gagnent aussi pas mal de matchs. Donc, quand ils ont eu Garoppolo en bonne santé, ils ont toujours été bons, en fait. C'est juste que l'année dernière, ils se blessent, je crois, contre les Chiefs, la deuxième ou la troisième semaine. Et après, voilà, ça, Et après, ils tentent, ils font une saison pas bonne et ils récupèrent Nick Bosa. Mais quand ils ont eu Garoppolo titulaire, ils ont quand même toujours gagné des matchs. Donc, on pourrait dire que certes, c'est un changement en une année, mais que le fait d'avoir Garoppolo, Kyle Shanahan, d'ailleurs, qui a reçu une extension cette semaine, ça fait d'eux une des meilleures équipes de la ligue. Ils l'ont été quand ils ont cette combinaison ensemble en bonne santé.
Totalement, tu parlais de Shanahan, on peut aussi parler du fait que les coordinateurs sont de retour. Robert Saleh était peut-être, on discutait de son nom pour certains postes de head coach, il est de retour. Enfin bref, globalement, les coachs et je veux dire le coaching staff est de retour. Et puis côté Saints, pour revenir un peu sur eux, là aussi on est sur une équipe qui retrouve beaucoup de ses éléments. On en a parlé pendant la draft, notamment leur effectif est blindé et à chaque fois que je regarde leur effectif, je crois que c'était un article de Sports Illustrated qui se faisait la même réflexion. Tu te dis comment ils ont fait pour ne serait-ce ne pas être qu'à un Super Bowl en fait. Sur ces quoi? Deux, trois
Ah,
dernières années, tu te dis c'est pas possible.
c'est pas possible, c'est vraiment. Ils ont sur l'effectif, ils ont 5 corners qui peuvent être titulaires dans plein de défenses de NFL. Ils ont rajouté Malcolm Jenkins. Ils ont fait à la draft, je sais pas ce qu'ils font. Ils font toujours des trucs un peu bizarres. Ils
Oui, c'est
signent des
vrai.
joueurs, ils montent. Je comprends pas, mais ils ont toujours Sean Payton qui arrive toujours à trouver des solutions en attaque.
Emmanuel
Donc,
Sanders, très important.
ils ont rajouté Emmanuel Sanders, t'as raison. Emmanuel Sanders, Malcolm Jenkins, deux vétérans qui ont de l'expérience, qui ont déjà gagné des Super Bowls, qui vont venir apporter à cette défense. Et Sanders à l'attaque, en soutien de Michael Thomas. Ouais, franchement, il est blindé l'effectif. Il est totalement blindé.
Ouais, donc là, je pense que tu es peut-être d'accord avec moi, on avait dit en AFC qu'il y avait les Chiefs au-dessus, les Chiefs qui sont, je pense qu'on peut même le dire, la meilleure équipe, je pense, de NFL. À ce moment-là, c'est extrêmement difficile d'anticiper avec le contexte actuel, on est en intersaison, bref. Et en NFC, on a peut-être les Saints un petit peu plus haut, un petit peu plus de, comment on dit, de certitude que les 49ers.
Moi, oui. Pour moi, c'est les deux meilleures équipes et je dirais que les Saints sont un poil au-dessus, ouais. Même si on se rappelle de ce match quand les 49ers vont gagner aux Saints
Qui est
l'année
incroyable.
passée. Ouais, vraiment une orgie offensive et Garoppolo qui avait vraiment fait des jeux. Il a fait les jeux qu'il n'avait pas réussi à faire au Super Bowl, en fait. Donc, ouais, c'est les deux meilleures équipes, mais comme toi, je pense que les Saints sont peut-être un petit avantage maintenant.
Excellent match que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube. Là, pendant le confinement, la NFL l'a passé sur sa chaîne YouTube et c'était vraiment ouais, moi j'ai regardé un petit peu à nouveau ce match-là incroyable et Kittle, l'action de Kittle où il y a quatre mecs, enfin c'est
Ouais.
complètement incroyable. Alors on a assez parlé des deux équipes au-dessus parce qu'on est censé le trouver le troisième du podium. Alors on va fonctionner un peu comme on l'avait fait en AFC avec dans un premier temps en éliminant les équipes qui sont trop loin pour nous. Mais Alan, pendant qu'on préparait ce podcast, t'as insisté pour que, contrairement à ce qu'on a pu faire en AFC, où on avait d'un côté un groupe d'équipes pas prétendantes et de l'autre les prétendants, selon toi, en NFC, il y a trois strates différentes. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi t'as
Ouais.
insisté pour qu'on divise ça en, on va dire, les équipes un peu dans le groupe Eto, les poursuivants et les favoris pour cette troisième place?
Exactement, excellente métaphore liée au monde du vélo. Ouais, en fait, pour moi, il y a une stratification bien plus établie en NFC, c'est-à-dire que on a bon. Pour moi, trois équipes, parce que moi j'inclus les Bears dedans, et toi tu inclus aussi en plus les Lions,
Ouais, on en
on va dire.
parlera.
C'est le bas du classement. C'est une des équipes qui, je pense, peuvent pas être. En fait, là, tu l'as bien rappelé avant qu'on commence, c'est pas vraiment qui c'est meilleur. C'est qui peut, sur un petit run en playoff, aller en finale NFC et donc battre une des deux équipes en haut. Donc pour moi, tu as cinq équipes qui, je pense, ne peuvent pas faire ça. Ne peuvent pas battre ces équipes-là. Ensuite, on a un groupe de poursuivants. C'est des équipes qui soit sont sur la pente ascendante, soit sont sur la pente un petit peu plus descendante, mais restent talentueuses, bien coachées, avec de très forts joueurs. Et après, on a le groupe des cinq équipes qui sont les équipes que nous deux, je pense, on pense qui peuvent aller en playoff, parce que maintenant, il faut rappeler que c'est sept équipes qui vont en playoff, c'est pas six. Et donc, ouais, ça fait, en gros, ça fait des groupes, ça fait trois groupes distincts, là où, il y a 3 semaines, sur l'AFC, on avait vraiment, bon, on a 6 équipes qui, elles peuvent aller en finale AFC si ça se passe bien. Et les autres, je pense qu'elles elles en sont pas capables.
Même s'il y avait certains petits cas, par exemple, notamment Brands, où on était un petit peu plus nuancé, mais c'est vrai que globalement, il
Ouais.
n'y a pas vraiment trois groupes qui se dégageaient comme on va le voir aujourd'hui. Eh ben, assez parlé, j'ai pas besoin de rajouter quelque chose sur ce qu'a pu dire Alan. On va débuter avec le troisième et dernier groupe, celui des équipes, on va dire, sans aucune chance. Groupe où, comme tu l'as dit, Alan, t'as placé quatre équipes, personnellement, j'en ai cinq. Je te propose de faire comme la dernière fois, on alterne les prises de parole dans un espèce de petit
Vas-y.
ping-pong pour expliquer pourquoi telle équipe a pas fait le cut, et puis bien sûr on pourra rajouter quelque chose à chaque fois si on a un élément intéressant à ajouter. Donc tu l'as dit de ton côté, quatre équipes, Giants, Redskins, Panthers, Bears, je te laisse commencer par celle que tu souhaites.
Bah, les Giants, on va commencer par le plus à l'est. Les Giants, parce que c'est l'année 2 de Daniel Jones, parce qu'il y a un nouveau staff. Et parce que l'effectif n'est pas assez bon, tout simplement. L'effectif n'est pas assez bon. Stan Jones a fait ce qu'il a pu, des choses intéressantes l'an passé, même s'il y a des gros problèmes de fumble, avec un corps de receveur, il n'y en avait pas en fait, décimé. Et en plus, c'est comme c'est la mode Houston, c'est que des receveurs de poche. Donc, je sais pas. La défense. C'est problématique, ils payent les pots cassés de leur grosse signature de 2000, des free agency 2016-2017. Vous avez donné un peu d'argent à des joueurs d'ailleurs qui sont plus dans l'effectif, hein. Janoris Jenkins, Olivier Vernon, d'autres joueurs comme ça. Je pense qu'ils attendent des progressions en interne de joueurs qu'ils ont draftés. Je pense que voilà, pour les Giants, c'est un nouveau. Je pense que dans leur tête, ils ont trouvé leur quarterback. C'est bien pour eux, ils ont le plan. Mais il y a tout un nouveau staff et je pense qu'ils peuvent pas encore candidater à mieux que voilà être à 5-6 victoires, 7 victoires peut-être grand maximum.
Je pense que les fans des Giants te remercient que tu n'aies pas cité le grand Alec Ogletree aussi dans ta liste.
Putain, c'est vrai, des Rams.
Ouais.
Les
Alec,
anciens des
le
Rams.
linebacker qui n'a pas vraiment payé, qui n'a pas été au rendement de l'investissement qui a été mis sur sa personne. Rien vraiment à rajouter sur les Giants, si ce n'est que, comme on a pu le dire à l'occasion de la draft, parce que oui, je les avais dans la mock draft, tu pourrais avoir limite Patrick Mahomes, et j'exagère à peine, quand tu amènes sur le terrain cette défense-là, tu peux pas vraiment espérer ne serait-ce que qualifier pour les playoffs, je pense. Ça me paraît beaucoup trop difficile. Surtout que on a adressé le poste, la ligne avec le premier tour. On a le premier tour de draft de l'année dernière, DeAndre Baker qui est en démêlé avec la
Ah
justice.
oui,
Bref,
ah oui.
il y a un chantier niveau défensif et c'est pas pour maintenant. Bah du coup, je vais rester avec la NFCS, pardon, du côté des Redskins. Alors là, j'aurais même pas besoin de passer 3 minutes dessus. Il y a eu la sélection de Chase Young. Il y a un très bon front seven et c'est un petit peu tout. Dwayne Haskins, je l'ai un peu défendu dans l'épisode mock draft, mais ça reste quand même un joueur qui a sous-performé dans sa saison rookie. Et il y a quand même des grosses questions sur sa capacité à être un quarterback titulaire dans cette ligne. Autour de lui, il y a très peu de choses. Trent Williams est enfin parti. On aurait pu en parler, ça d'ailleurs, pour les 49ers qui ont
Ah oui, c'est
Trent
vrai.
Williams.
Oui, oui.
On a oublié de le
Ouais.
mentionner.
À la place de Staley, ouais.
Il a très peu de cibles. L'attaque globalement est très pauvre et le backfield défensif est très pauvre. Donc en fait, un front seven, ça suffit pas pour performer. Ça va être une équipe intéressante à regarder si t'es fan du football à l'ancienne, mais je pense que ouais, ça va pas être une équipe qui va peut-être un petit peu poil à gratter, parce que gros front seven, ils peuvent te faire perdre des balles, ils peuvent mettre la pression sur ton quarterback, mais vu qu'ils vont tellement peu inquiéter en attaque, je pense que c'est une équipe, voilà, qui sélectionnera encore dans le top 10 la saison prochaine.
Ouais, rien à rajouter. Peut-être le Dark Horse. Est-ce que Cam Newton pourrait rejoindre Ron Rivera? Mais en même temps, c'est juste ce qu'on entend. C'est que si tu amènes Cam Newton, les vétérans de l'équipe vont vite voir que bah, il est meilleur que Dwayne Haskins et que Kyle Allen. Et donc, ils vont demander à ce qu'il joue. Et si tu veux plutôt privilégier le développement de ton quarterback rookie, c'est pas une bonne idée. C'est ce que tu disais dans l'épisode un peu. Ce qui pose problème maintenant sur ces quarterbacks semi-vétérans, comme Cam Newton. Non, je suis d'accord avec toi. Très bon front seven. En même temps, ils ont drafté au premier tour du front seven depuis 4 ans.
Oui, donc ouais. C'est un peu l'effet 49ers.
C'est ça. De grosses facs en plus. Des joueurs gros, des joueurs vraiment connus et tout ça. Donc, ouais, je suis d'accord, mais il y a. À part Terry McLaurin, il n'y a pas d'armes offensives. En termes de running back, ils sont souvent des joueurs blessés. La ligne sera moins bonne. Je suis d'accord avec toi. C'est les deux. Pour moi, avec les Panthers. Les Panthers, c'est différent. C'est les deux cancres de la ligue. Les Giants et les Redskins.
Et un petit truc juste à rajouter par rapport à ce que tu as pu dire sur les Redskins par rapport à Cam Newton, je pense juste que le move aurait déjà été fait. L'acquisition, pardon, aurait déjà été faite à ce stade, je pense. Et puis il y a bien surtout le signal envoyé par l'arrivée de Kyle Allen montre que tu as pas ramené tout Carolina. Donc je pense que c'est un petit peu peut-être un petit peu tard pour Newton, la transition est parfaite. Newton, on se dirige du côté des Carolina Alan. Petit, attention, roulement de tabour. Carolina Panthers ou Carolina Tankers?
Ah, Carolina,
Ah.
nouveau cycle, c'est ça, c'est sûr. Carolina, bon, ils ont donné énormément d'argent à un coach qui avait un gros pédigré en NCAA. Il arrive, il change un peu tout. Je pense que d'ailleurs, il a changé Cam parce qu'il veut implanter une nouvelle culture et que peut-être qu'il voulait pas que Cam disait, ah, mais ça se faisait comme ça avant, ça se faisait comme ci pour les vétérans. Lui, non, je pense qu'il veut changer un peu les choses. Et voilà, Carolina, de solides joueurs en plus des deux côtés du terrain. D'ailleurs, c'est bien, ils ont pris Bridgewater, donc ça pourra mettre en valeur certains de leurs beaux joueurs offensifs, mais ça reste pas assez. Je pense surtout que c'est pas le but pour eux de gagner. Ils sont là pour évaluer ce qu'ils ont, construire un nouvel effectif et vraiment se positionner dès 2022 ou 2023, je pense.
Totalement, pas grand-chose à rajouter. Leur défense était aux abois l'année dernière. Dans la fameuse stat dont j'ai reparlé, tu vois, des snaps qui vont revenir, ils sont derniers en NFL. Il y a vraiment un chamboulement total dans
Et il y a
l'effectif.
le Kikli en plus, le Kikli
Tu
qui est
perds
plus là.
Kikli, tu perds des piliers de ta franchise de la décennie précédente avec Kikli, Newton,
Olsen.
Olsen. Enfin, il y a, comme tu l'as dit, nouveau départ. Et oui, clairement, on va être dans les bas-fonds et ils vont quand même se prendre ils vont se prendre des valises défensives, je pense, parce que il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé, enfin d'encre qui ont coulé, non, plus de nos jours de pages internet qui ont été créées sur l'unique sélection de joueurs défensifs à la draft, mais
Oui, c'est vrai, ils ont fait ça.
on en,
7 joueurs défensifs,
ouais,
ils ont.
exactement, mais on en parlera quand tu fais ça pour une équipe de la NFC toujours plus tard. Tu peux pas espérer que les rookies payent direct, donc il y aura de la casse aussi forcément, donc surtout dans cette intersaison-là. Donc c'est un peu dur pour les Panthers. Avant-dernière équipe de ce chapeau pour moi, dernière pour toi, les Bears. J'ai quand même l'impression, je sais pas si tu es d'accord, que les Bears sont quand même un mini cran
Oui,
au-dessus des autres. C'est-à-dire que les Bears pourraient aller en playoff, je serais surpris. Mais je tomberai pas de ma chaise. Là où je tombe de ma chaise, si Panthers, Redskins et Giants réussissent à se qualifier pour les playoffs. Bien évidemment, avec les Bears, la question au poste de quarterback, j'ai l'impression que c'est un peu tout. Enfin, et l'attaque globalement avec un Matt Nagy qui est aussi loin
Six
d'être,
Titans sur le terrain.
ouais. Matt Nagy qui est loin d'être exempt de tout reproche. Ryan Pace aussi. Pourquoi tu donnes autant d'argent à Robert Quinn? Pourquoi tu donnes Jimmy? Enfin bref, autant de tight ends. Il y a plein de trucs qui sont douteux, très peu compréhensibles. Et oui, je pense que c'est une équipe qui a raté son moment et qui va devoir peut-être un peu se réinventer.
Ouais. Déjà, qui va gagner le job, quoi? Qui va gagner le job de starter?
Ah, je pense que c'est.
Pour
Ah, quoique, non, c'est quand même, on dit tout le temps, mais c'est tellement une intersaison bizarre, peut-être qu'ils vont parier sur la continuité.
Franchement, j'arrive pas à savoir pour l'instant qui va gagner le job parce que Foles est arrivé comme avec un pédigré dans le. Même s'il faut le dire, hein, Foles, il a quand même 75% du temps de sa carrière été mauvais en NFL. Et
Totalement.
mais 25%, mais 25% où il a été super fort. La saison avec Chip Kelly, le run de playoff, la deuxième fois où ils vont en playoff avec les Eagles 2018, où ils battent d'ailleurs les Bears sur le kick raté. Voilà, et donc
Ils sont
ça
à un
reste
cheveu de taper
dans
les
la
Saints
tête.
aussi, ouais.
Exactement, tu vois, et j'écoutais un podcast, et dans le podcast, c'était le podcast de Chris Long, et ben dedans, il avait Michael Bennett avec lui, et Devin McCourty, et les trois disaient, Foles est meilleur que Wentz, tu vois. Mais c'est fou!
C'est
C'est fou!
incroyable, hein.
C'est.
C'est.
Tu vois? Donc pour dire comme quoi des vétérans pensent peut-être que, et si Nick Foles arrive, et que sur le training camp, ben, il est meilleur que Trubisky, je pense qu'il aura le job.
Surtout que tu parles de vétérans sans te couper, je pense qu'en plus, ils ont déjà plus ou moins. Alors, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, on ne suit pas Chicago autant que les fans des Bears, mais je pense probablement qu'une partie du vestiaire l'a plus ou moins déjà abandonné. Et quand ils vont voir Foles arriver avec son pédigré et sa capacité, comme tu l'as dit, à être bon à des moments cruciaux, parce que c'est surtout ça en fait. Ce qui est incroyable, c'est que les 25%, c'est toujours au bon moment. C'est ça qui est totalement fort. Je pense que ça peut vite tourner. Très vite tourné, surtout
Ouais.
quand tu lui as pas donné l'extension, cinquième année, premier tour de draft, enfin c'est ouais, le vent tourne.
Ouais, c'est ça, le vent tourne. Puis c'est une défense qui est prête à gagner. Hein.
Est-ce que tu
La
crois que c'est
défense
toujours le
Bears.
cas, ça?
C'est une bonne question. Khalil Mack a été moins ultra dominant l'année passée. Moi, il y a un de mes joueurs préférés de NFL, c'est Eddie Jackson dans cette défense. Avec c'est Chuck Pagano, le coordinateur défensif, c'est moins bon qu'avec Vic Fangio, c'est sûr. Mais pour moi, oui, ça reste une défense. Ils ont besoin aussi que Roquan Smith fréquente d'autres personnes pendant la quarantaine. Les gens qui ont la référence sauront. Mais non, pour moi, oui, ils ont une très bonne défense. Je pense qu'ils ont une très bonne défense, mais c'est la dernière année, je pense, parce qu'après, il faudra payer certains joueurs. Donc. Ils ont perdu quelques joueurs solides, tu vois. Prince Amukamara, c'est un joueur solide en NFL. Bon, c'est un deuxième corner solide. Ils ont des petites questions. Ils n'ont pas non plus 20 000 choix de draft ces dernières années parce qu'ils les ont tous balancés dans le trade de Khalil Mack. Donc, va falloir voir. Va falloir voir. Mais ouais, ils sont meilleurs que les trois qu'on a cités avant. Mais en fait, même si bon, la ligne n'est pas mauvaise, Matt Nagy a le pedigree de venir de Kansas City et tout ça. J'attends, je veux voir son attaque fonctionner, parce que pour l'instant, en 2 ans, ça n'a plus jamais fonctionné, quoi.
Ça c'est enfin Trubisky a tous les défauts du monde. Je trouve que quand même Nagy a aussi sa part de responsabilité. C'est souvent, alors on cite souvent son nom malgré le fait qu'il soit un petit peu controversé, on va dire. Chris Sims avait quand même rappelle souvent le fait que Nagy avait dit en gros dès son arrivée qu'il pouvait pas faire marcher entièrement son attaque avec Trubisky. C'est quand même extrêmement gênant quand t'es censé être le head coach et de un peu mettre sous couveuse un quarterback. Alors on va passer un peu plus et je sens que ce podcast va être très long, Alan, parce qu'on est bientôt à 25 minutes alors qu'on est sur
Allons-y.
que les équipes éliminées. On va passer, je pense, sur il va y avoir quatre équipes, quatre cinq équipes peut-être comme ça où ça va porter débat, je pense, où on va avoir une analyse fondamentalement différente. Les Lions. Moi, j'ai inclus les Lions dans ces équipes un petit peu. Alors pour moi, si je continue la métaphore cycliste, les Lions sont un peu avant le groupe Eto, mais je les vois pas assez forts pour mettre un coup d'accélérateur et rattraper les poursuivants. Je m'explique. Je trouve que les Lions, je dirais pas qu'ils ont une certaine hype, mais beaucoup de personnes se disent, avec Stafford, ils avaient fait un bon début de saison l'année dernière. Stafford s'est blessé, ils peuvent revenir plus fort.
Il me prend mes arguments.
Et surtout, ah, désolé. Et surtout, c'est vrai que j'ai retrouvé cette stat, et bien sûr, enfin, elle était souvent répétée pendant la saison NFL. Ils ont quand même été devant dans 14 des 16 matchs qu'ils ont joués, et ils ont été devant dans le quatrième carton 7 fois avant de perdre. Donc, tu peux te dire que c'est une équipe qui a souvent, ça s'est joué sur un coup de dé en leur défaveur. De l'autre, alors déjà, moi, dans ce genre de cas, j'aime bien donner le bénéfice du doute à une équipe qui a, comment dire, une culture de la gagne. Je sais, c'est un petit peu surfait. C'est une équipe qui a quand même pas gagné sa division depuis 93, qui a pas gagné un match de playoff depuis 91. Enfin, je suis désolé. C'est quand même des éléments qui jouent pas en leur faveur. Ensuite, je reste extrêmement pessimiste quant à leur défense. Leur run stop, ils ont perdu Snack Harrison, ils l'ont pas vraiment remplacé. Surtout qu'on est quand même dans une division où beaucoup d'équipes parient un peu sur le sol. Donc c'est un problème de pas savoir bien bloquer le sol. Au niveau de leur linebacker, c'est pas, je suis pas rassuré non plus. Jeff Okuda a été sélectionné, c'est très bien, mais ça reste un rookie corner, donc il pourrait avoir des défaillances. Bref, je trouve pas qu'ils sont dans le même, dans la même catégorie que les poursuivants dont on va parler. Pour moi, ils sont très loin de ça.
Moi, je les ai inclus parce que qu'en fait, pour moi, quand Matt Stafford, c'est un QB top 10 NFL, donc juste ça, ça te permet d'être dans les poursuivants. Juste ça, ça te permet d'être dans les poursuivants. Et s'il reste, s'il n'est pas blessé, bah, ils n'auront pas à jouer des matchs avec David Blow ou Jeff Driskel en starter. Et rien que ça, je pense que ça va aider du côté de Détroit. Je critiquais énormément le fait d'avoir pris Darrell Bevell, l'ancien coordinateur des Seahawks, mais toujours est-il que les stats de Stafford sur... sur la saison qu'il a faite, était assez bonne l'an passé. Je crois que c'était 19 TD, 6 interceptions. C'est pas, en fait, c'est pas sexy. Non, c'est jamais sexy, Détroit. C'est jamais sexy. Mais je crois quand même que ils sont meilleurs que les équipes qu'on a mis avant. Et je pense qu'ils peuvent être avec le groupe des poursuivants. La défense, t'en as parlé. Ils ont pris 4 mecs de New England.
Voilà, classique.
C'est Matt Patricia, donc Danny Shelton, qui va prendre le rôle de Snacks Harrison, parce que c'est ce qu'il sait faire. Jamie Collins, on ne sait pas quel Jamie Collins on a, celui qui est à New England ou celui qui n'est pas à New England. Jaron Harmon aussi, qui va être là. Lui, c'est un joueur solide, et je pense que dans la secondary, avoir juste un joueur solide, ça va leur faire du bien. Surtout au centre, c'est parce que c'était très jeune, ils ont perdu tout leur safety vétéran, Glover Quinn, Quandre Diggs, que Patricia a balancé pour rien du tout à Seattle en courte saison. Non, mais c'est vrai, quelle bêtise. Ils ont plein de jeunes, hein, sur les DB derrière. Ils ont plus de Darius Slay, faut le dire aussi. Ils ont plus de Darius Slay parce qu'ils voulaient pas payer Darius Slay, en fait. Donc ils ont préféré payer Desmond Trufant moins cher et
sélectionner
Okuda, comme tu l'as dit. Trufant qui n'est plus le joueur qu'il était. Dans ses meilleures années d'Atlanta. Je me dis quand même que bon, tu l'as dit, ils étaient dans tous les matchs. S'ils sont dans tous les matchs avec Stafford, s'ils se font pas, s'il y a pas un fumble sur la ligne des 1 contre Kansas City, comme l'année passée où c'est une action irréelle, s'ils se font pas prendre 3 pénalités contre les Packers dans le dernier quart-temps, c'est avec des surfaits bien sûr, mais si voilà, si ça va dans leur sens au lieu que ça n'aille pas dans leur sens en termes de blessures et de fait de match, ça tourne à rien. Je pense qu'ils peuvent ils peuvent être dans le groupe des poursuivants. Ils peuvent atteindre 8-9 victoires, et surtout je pense que le front office et le coaching staff jouent leur tête cette année, donc il y aura pas de, on va perdre.
Est-ce que c'est pas un problème ça, justement? Est-ce qu'ils vont pas faire, ils vont pas prendre des décisions pour, on en parle souvent, on en parle un peu ici, on en parle souvent dans notre podcast basket. Est-ce que c'est pas un problème quand tu joues ta tête parce que tu vas penser ultra court terme, quitte à, en NFL, ça va être quoi le court terme? Ça va être gagner ce match-là plutôt que penser à 2, 3, 4 semaines après.
Ouais, il peut y avoir ça, mais c'est pas comme NBA où tu vois, à une deadline, tu vas balancer, pour t'améliorer. C'est pas du tout, en NFL c'est très compliqué de faire ça. Je pense juste que ils ont mis de l'argent, c'est une équipe qui a investi de l'argent sur les deux dernières années. On n'a pas parlé aussi du fait qu'ils ont payé le tackle de Philly au nom imprononçable, Vaitai.
Voilà,
même moi je peux pas défendre ce choix là, c'est pas possible de donner autant d'argent à un joueur qui ne les vaut pas, je pense. Après c'est toujours la NFL, hein. Est-ce qu'un coaching staff voit un skills d'un joueur qui pense qu'il peut le mettre dans son système? On en sait vraiment, on verra le résultat en septembre-novembre. Mais je pense que si Stafford joue les 16 matchs, ils sont dans le groupe des poursuivants. Parce qu'en fait, ils ont toujours été dans le groupe des poursuivants quand Stafford a été en bonne santé. Ils ont juste après jamais réussi à gagner un match de playoff parce qu'ils vont jouer à Seattle, ils vont jouer aux Saints, et même si t'as Stafford et Megatron, tu peux pas gagner.
Justement, pour moi, ça c'est un contre-argument parce que tu peux pas gagner, et dans ce groupe des poursuivants. Quoi qu'on en dise, on a beaucoup d'équipes qui ont déjà prouvé qu'elles pouvaient gagner un match et passer pas loin, même sur les années récentes. Les équipes dont on va parler dans le groupe des poursuivants, certaines ont joué des Super Bowls, certaines sont allées loin en playoff. C'est pas le cas des Lions, malgré qu'ils avaient, selon moi, des meilleurs effectifs. Pour revenir sur l'effectif, okay. Tu vois, par exemple, je pense que globalement, j'ai peut-être moins une haute opinion de ces joueurs. Par exemple, on parle beaucoup de Stafford, donc qui devra s'appuyer sur un groupe de receveurs importants. Kenny Golladay, qui est en train de devenir le Mike Conley de la NFL, c'est-à-dire que tout le monde dit qu'il est sous-coté, ce qui pose une question, en fait. Est-ce qu'il est vraiment sous-coté? Bref. Puis tu vois, on parle souvent de ce trio Golladay, Amendola, Marvin Jones, mais derrière, c'est quand même c'est le désert de Gobi, derrière, et quand tu sais que Amendola est quand même prompt souvent à se blesser, ça me pose des questions. Enfin bref, globe.
Ouais, tu sais ce qu'il est, Amendola.
C'est
tu
ça.
Tu sais ce qu'il est.
Donc, à voir. Moi, je pense juste que globalement, c'est une équipe qui, selon moi, pourra réaliser quelques exploits, mais j'ai peur qu'elle se base beaucoup trop sur la capacité de Stafford à réaliser des exploits. Et là où Stafford est top 10, je pense pas que c'est un mec qui, sur une saison régulière, peut porter une équipe et les amener en playoff juste sur son talent unique, juste sur son talent à lui.
Ouais.
Eh ben Alan, on peut...
Ils auront besoin de centre coupé, ils auront besoin, je pense, de Hockenson.
Bien sûr.
Leur haut choix de draft
le tight end
de l'année passée. Je pense que lui, il peut aussi les aider en attaque et ça serait bien qu'il les aide. Parce que déjà, sélectionner un tight end si haut, c'est un risque. Parfois, on peut voir historiquement NFL. Et tu l'as dit, en termes, ils ont deux très bons receveurs, deux bons receveurs. Un slot avec Amendola et derrière c'est un petit peu plus compliqué donc ils auraient besoin de ça. Ouais.
Totalement, ouais, totalement. Surtout ça permettrait de faire respirer un peu Stafford, ce serait plutôt pas mal. On va enchaîner Alan. Alors logiquement on aura enchaîné par les poursuivants mais j'ai décidé de faire monter la pression directe et de voilà étape de montagne. On a parlé beaucoup cycliste, on met le galibier au milieu de l'étape. On va direct enchaîner par les équipes qu'on considère comme favorites pour faire vaciller nos deux favoris qu'on a installés en NFC, 49ers et Saints. Alors, je vais nommer ces cinq équipes. C'est le moment où on va se faire détester ensuite par les fans des autres équipes. On a donc, pas dans l'ordre dans lequel on va les classer, les Seahawks, les Eagles, les Cowboys, les Packers et les Buccaneers. Alan, je me tourne tout de suite vers toi. Qui est-ce que tu as cinquième dans ce classement? Alors que moi, je te l'ai dit, avant de commencer, je les ai toujours pas classés. J'ai extrêmement de mal, contrairement à l'AFC, à les classer cette fois-ci.
Alors, ça a peut-être porté un petit peu, mais j'ai les Packers en cinquième.
En cinquième, je vais être honnête avec toi, j'hésitais entre les Packers et les Eagles. Donc,
ok. J'ai les Packers parce que on a beaucoup parlé. On a parlé de la draft, on a parlé de dans l'épisode après sur les petites conclusions à tirer de la draft. Pour moi, ils ont été en finale à NFC l'année passée, mais c'est pas une équipe qui avait un niveau de finale NFC. Je pense pas. Je regarde l'effectif, je vois ce qui s'est passé cette année dans l'intersaison. C'est une équipe qui a fait extrêmement peu de mouvements. Il y a on va dire deux ajouts de starters, c'est Ricky Wagner sur la ligne qui va venir remplacer Brian Bulaga qui est parti à San Diego, à Los Angeles, pardon. Christian Kirksey, linebacker, qui va venir aussi remplacer ce qu'ils avaient un peu, leur trio de linebackers qui sont tous un peu partis. Ils n'ont pas fait d'ajout à la draft, on en a parlé, mais ils en ont fait, mais ce n'est pas des ajouts peut-être qui devraient aider Aaron Rodgers en 2020. Donc je me dis que avec un calendrier qui va être plus compliqué parce qu'ils ont gagné leur division et donc ils vont affronter que des vainqueurs de division. Ils vont aller aux 49ers, ils vont aller aux Saints, ils vont à Houston, ils vont aux Colts. Je me dis que en fait je pense que l'effectif est moins bon que tous les autres effectifs et Aaron Rodgers c'est plus le meilleur quarterback de la ligue donc il peut plus surélever tout ça comme il le faisait entre 2011 et 2016.
Alors tu as dit beaucoup de choses. Globalement je suis d'accord avec ce que tu as pu dire. J'ai l'impression, on va le dire, que de toutes ces équipes, c'est un peu l'équipe qui s'est stabilisée. C'est-à-dire que on parlait beaucoup de stabilité avec les 49ers et les Saints. Il y en a aussi du côté des Packers, pardon. Sauf que t'es face à une équipe qui arrivait à 13 victoires la saison dernière. Et on l'avait dit dans nos épisodes précédents, t'as bien fait de le mentionner. C'était des 13 victoires au goût particulier. On va dire
Un peu en
que,
trompe-l'œil.
ouais, un peu en trompe-l'œil, des matchs gagnés, etc. Ils se sont fait, bon, on l'a vu, atomisés par les 49ers. Ils se sont atomisés en finale NFC. Tu vois, c'était un petit peu en trompe-l'œil assez étrange. Je me dis juste que, comme on va le voir dans, en gros, la plupart de ces équipes, à part, peut-être à part une ou deux, j'ai l'impression qu'il y a quand même des grosses questions sur une unité. J'ai pas
Ok.
l'impression côté Packers, l'unité qui pose le plus de questions, c'est quand même celle de receveur, c'est une et middle linebacker aussi, bien sûr, tu as bien fait de le mentionner. Mais alors, là pour moi, c'est là où doit se justifier l'embauche de Matt LaFleur. C'est tout simplement, t'es censé être un mec qui être dans la veine Shanahan, être un très bon dessinateur de jeux offensifs se basant sur le run. Il l'a prouvé un peu la saison dernière. Il devrait être censé, malgré un voilà, des faiblesses au niveau du jeu aérien, bah, compenser avec un jeu de course bien dessiné. Pour moi, en fait, cette saison, plus que une saison où Rodgers va faire la tête, ça va être un révélateur pour Matt LaFleur.
Ouais. Ah ouais, je suis vraiment d'accord. Matt LaFleur, il a eu son. On va pas se mentir, il a eu son. Il a eu le job parce que il a été le coordinateur offensif de McVay et parce qu'il a été. Qu'il a bossé avec Shanahan et McVay au Redskins d'ailleurs. Parce que s'il est pris sur l'année où il est coordinateur offensif au Titan, je suis désolé, mais
Non, c'est pas, ça
c'est pas
justifie pas,
ça
non.
qui fait. Tu vois, c'est pas ça qui justifie le fait qu'il. Après, Mariota l'a peut-être pas aidé, peut-être, mais c'est pas ça qui justifie le fait qu'il était qu'il méritait un poste de head coach. Il l'est parce que, voilà, comme tu as dit, il vient de la branche Shanahan, du père Shanahan d'ailleurs au début. Ce jeu de course super, de zone super, super fort, super établi, qui fait que. Et qui d'ailleurs, qui a mis à mal les Packers, celui des 49ers. Et. Même celui des Rams de Sean McVay. Et qui a aussi a permis à Kevin Stefanski d'avoir un job à O'Brien. Tu viens de cette zone de coaching-là, tu as un
T'es
poste
bon,
de head
ouais,
coach en ce
t'es
moment.
pas mal quand même.
Ouais.
Faudrait faire les calculs, mais t'es pas mal.
Tu as un poste de head coach. Parce que même Gary Kubiak vient de ce poste-là. Il est coordinateur offensif maintenant. Coordinateur offensif que tu aimais beaucoup au Ravens. Alors, mais moi, je suis d'accord. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est est-ce que quand tu as Aaron Rodgers. Et eh ben tu vas lui dire non non mais alors là c'est je veux juste que tu lui
Ouais.
je veux que tu donnes la balle au receveur là je veux que tu t'as juste une slant t'es sur ta première lecture le jeu sera ouvert fais ça. Aaron Rodgers c'est quand même c'est un mec qui est dans le big play c'est un des tout meilleurs quarterbacks de tous les temps il a toujours il a connu pendant allez 14 ans quasiment un même coaching staff McCarthy qui lui dessinait des jeux. Est-ce que voilà, est-ce que c'est avec Aaron, est-ce qu'Aaron Rodgers peut se contenter de ça? On l'a vu. En fait, je sais pas, c'est un peu bizarre, tu vois, parce qu'on dit, on l'a vu aussi faire des big plays, mais on l'a vu ne pas en faire aussi. Donc, est-ce qu'il en est toujours capable? C'est plein de questions qui sont là. Est-ce que le schéma est plus fort que est devenu va devenir plus fort que l'homme? Mais est-ce que l'homme est toujours capable de ces énormes coups d'éclat? Il est capable, mais je pense un petit peu moins qu'avant. Il a plus Jordy Nelson, il a plus Randall Cobb, il a plus les joueurs qu'il a. Je pense qu'il a confiance qu'en Davante Adams.
Est-ce qu'il n'a pas un peu
Il
raison?
a raison. Et il a besoin de cette confiance, tu sais. Il est toujours sur ça. Lui, il est sur. Je garde la balle, je tourne un peu, 3-4 secondes. Qui va réussir à se mettre ouverte, même quand il fait ses trucs sur le snap. Il a besoin d'une super bonne coordination avec ses receveurs. Et je pense que, comme tu le disais dans l'épisode sur la draft, et là tu le redis, c'est le deuxième et le troisième receveur des Packers, c'est Allen Lazard et Marquez Valdes-Scantling. Aujourd'hui.
Donc ouais, c'est assez faible. Après, pour revenir sur en gros ce que tu as pu dire globalement, il reste, j'ai l'impression quand même cette jurisprudence, on a quand même du mal à les enterrer parce qu'on se dit si on prend l'exercice, tu vois, dans l'exercice dans lequel on se plonge là, celui de se dire
Ouais.
l'équipe capable de faire un mini run, tu te dis que sur deux matchs, tu vois par exemple, je caricature, je lance un petit taquet aux fans des Cowboys, mais si je vois parfaitement sur un premier tour. Rodgers allait gagner au Cowboy Stadium, tu vois. Enfin, c'est pas un truc qui, tu vois, paraît hors propos.
Il a déjà fait en plus,
Il a
hein.
déjà fait
Voilà.
plus d'une, il les a traumatisés. Enfin, donc c'est pas un truc qui paraît fou. Et puis après, tu te dis s'ils règlent leur problème de jeu au sol, parce que clairement, eux, ils sont tombés sur leur kryptonite, je pense. Ils sont tombés sur leur
La
kryptonite.
défense, il faut la défense au sol.
Ouais, c'est ça. Si la défense au sol est un petit peu plus forte cette année, pourquoi pas? Après, c'est sûr que pour moi, le problème des Packers, c'est que leur intersaison joue contre eux et qu'il y a des questions autour de totalement juste autour de Rodgers. Et on n'a pas eu forcément, vu que la saison dernière a été un petit peu une lune de miel, on n'a pas eu la réponse à beaucoup, les réponses à beaucoup de ces questions.
Ouais, exactement. Et je pense qu'il y a quand même le poste de corner. Ça reste quand même un poste important. Mike Pettine, donc la défense, c'est un peu une défense qui joue très léger. Pour ça aussi qu'ils se sont fait atomiser, hein, on va pas se mentir, par la course. Il aime bien amener ses safeties dans la box, jouer avec 3-4 corners derrière. Et malheureusement, dans les corners qui sont draftés haut, il n'y a que Jaire Alexander qui a vraiment littéralement
Payé, ouais.
fonctionné. Ouais, Kevin King. Josh Jackson, Josh Jones, le safety qui est même plus dans l'effectif. Donc non, ça pose question. Il va falloir qu'il y ait vraiment une progression de ces joueurs dans leur backfield défensif parce que sur la ligne et aussi sur la ligne défensive de leur gros quoi, pour pouvoir stabiliser. Parce que sur l'edge ça c'est bon, mais j'aurais envie de dire que à l'intérieur de la ligne, Kenny Clark est un des meilleurs, mais derrière c'est super faible quoi.
C'est super
Donc
faible. Puis avoir le rendement des deux Smiths qui sont arrivés, qui ont complètement tout explosé, à voir ce qu'ils peuvent faire en année 2. Tu vois, il y a beaucoup de
ouais,
questions
c'est clair.
qui se posent sur les Packers, bien sûr. Je te disais de mon côté, si t'as rien à rajouter sur les Packers, que j'hésitais,
Non, c'est
moi,
bon, je pense.
entre Eagles-Packers pour cette dernière place du peloton des favoris. Est-ce que t'es d'accord sur le choix Eagles ou t'avais quelqu'un d'autre en quatrième?
Je suis les Eagles en quatrième.
Est-ce que c'est l'équipe la plus difficile à pronostiquer de la NFL? Si,
Avec peut-être.
je vais
Vas-y,
juste, je
vas-y.
vais préciser ma question. Si on enlève le facteur nouvelle acquisition, etc., c'est juste, est-ce que c'est pas juste une équipe qui, malgré le fait qu'elle globalement, même s'il y a eu des ajouts, il y a eu des départs, etc., le cœur reste à peu près inchangé, c'est une équipe qui reste totalement une pièce en l'air.
Ouais, un peu comme les Steelers, j'ai envie de dire. Ils sont, je sais pas, tu vois, donc je sais pas ce qui. Vas-y, je vais te laisser parler sur eux parce que ça m'intéresse d'avoir un peu ton avis sur moi. Ce que j'ai juste regardé, c'est un calendrier très compliqué du côté des Eagles.
Alors moi les Eagles, je me t'as parlé un truc alors c'est toujours compliqué d'aborder ces thèmes-là parce que moi je pars du principe qu'on est déjà on est à quoi à des milliers de kilomètres de Philadelphie, on n'a pas l'accès aux joueurs, etc. Mais c'est vrai que t'as parlé du fait que il y a quand même des vétérans, dès que les vétérans s'en vont, ils balancent toujours un petit taquet à Wentz, c'est quand même souvent le cas, t'as l'impression dans la presse.
Ouais.
Et tu te demandes, moi j'ai toujours la question sur à quel point Wentz c'est maintenant il y a plus Foles, heureusement, mais Wentz, à quel point Wentz c'est au sein du vestiaire le quarterback, je vais pas dire unanime parce qu'encore une fois il a plus vraiment de concurrence, mais vraiment tout le monde est prêt à se mettre derrière lui et à avancer. C'est une question que je me pose. Ensuite, on a parlé de leur draft, notamment Jalen Reagor, l'idée de la vitesse. Il reste pour moi quand même un peu faible sur le poste de receveur. Ils sont légers. Agolor et ton ami Jason Jackson vieillissent. Pas Agolor, pardon. Alshon Jeffrey. Oula,
Jeffrey,
oula,
ouais.
oula. Vieux. Les fans des Eagles ont dû avoir un arrêt cardiaque. Je leur ai refilé Agolor. Alshon Jeffrey, la question de création, de séparation, etc., qui pose question. J'ai encore peur qu'on se tourne beaucoup vers deux tight ends. Il y a la question de la capacité de Carson Wentz à rester en bonne santé, qui se pose vraiment maintenant, parce que il finit plus les saisons, Carson Wentz. Donc, je pense que
Non.
il faut se la poser. Puis, défensivement, je t'en parlais en off, j'ai l'impression qu'ils ont tellement voulu adresser le poste de corner, notamment avec Darius Slay, qu'ils en ont oublié d'autres, par exemple, celui de safety, etc. Donc, bref. J'ai l'impression que cette équipe me fait un peu penser à ce qu'on pouvait dire d'Atlanta il y a quelques années. Je compare pas les effectifs, je compare, en fait, l'analyse qu'on fait de ces équipes, si on se dit, c'est peut-être la troisième équipe à IA. Si tu fais comme les mecs à ESPN, les pros des chiffres, si tu fais 100 simulations, je suis persuadé qu'il y en a plus d'une où tu as les Eagles troisième. Mais est-ce que c'est pas des scénarios un peu trop parfaits? Peut-être.
Déjà, contrairement aux Packers, on l'a dit, on peut peut-être commencer par ça. Je vais commencer par ça. C'est là, il y a eu un gros turnover dans l'effectif. Il y a eu des changements. Il y a eu des. Ils se sont dit, bon, il va falloir qu'on s'améliore sur certaines choses. Déjà, les receveurs de vitesse. Parce que, déjà, des receveurs aussi qui peuvent rester en bonne santé. Parce que l'année passée, le problème, c'est pas vraiment les receveurs. C'est qu'en fait, ils se sont tous blessés. C'est que Al-Jeffrey Jackson se blesse. Le rookie Arcega-Whiteside, drafté au deuxième tour, bah, n'était pas assez mûr. Et donc, il se retrouve à jouer en playoff avec Greg Ward, Deontay Burnett, je me rappelle les noms parce que je me rappelle bien du match, et un Josh Perkins en receveur titulaire. Tu fais ça, c'est pas possible. Avec Josh McCown qui lançait la balle. Hein. Josh McCown qui lançait la balle. Ce match de playoff était d'une longueur. Heureusement qu'il y avait DK Metcalf en bas et son corps de dieu grec. Je sais pas, c'est pour me laisser passer le temps. C'est bizarre cette phrase, mais c'est pas grave. Donc ils se sont dit, vitesse. Donc ils draftent Trégor. Ils trade pour Marquise Goodwin aussi.
Oui, c'est vrai, Marquise Goodwin.
Des 49ers. Qui en fait, je te jure, j'ai l'impression que dès qu'il est en bonne santé, c'est vraiment un bon joueur.
Ouais, non, c'est un bon joueur, une cible profonde, etc. Oui, c'est un bon quatrième receveur, ouais.
Ouais, tu vois, Shanahan l'utilisait bien. Quand il était aux Bills, bon, les Bills savent pas utiliser les receveurs, ça c'est classique, hein. On le voit dès qu'ils partent des Bills, ils sont tous bons. Mais
Là, c'est un gratuit.
non, mais Robert Woods et compagnie, même Sammy Watkins. Ils ont et donc les receveurs et les DB, tu l'as dit, les corners. Parce qu'il y a aussi mon ami Nickel Robbie Coleman qui est du côté qui va les aider, je pense, dans le slot. C'est un receveur dans le slot. Et en même temps, ils ont perdu plein de joueurs sur la ligne, notamment Vitae, Peters. Ils ont perdu Timmy Jernigan et Vinnie Curry sur la ligne défensive, auxquels ils ont dit bon, on va payer. Gros investissement, c'est Javon Hargrave, que tu connais mieux que moi, avec qui est joué aux Steelers, je pense.
Qui est
C'est vraiment
un
bon.
très bon investissement. Moi, je pense vraiment que ça te permet de solidifier ta ligne et ils l'ont pas signé pour cher. À noter juste que Jason
Ouais.
Peters, c'est encore en discussion, en fait. On sait pas, c'est comme avec ces
Oui, c'est
joueurs
vrai.
en fin de carrière, tu sais pas s'il revient ou pas, c'est un peu trouble.
Bah, Hargrave et Fletcher Cox, qui est un très bon tandem quoi, à l'intérieur de la ligne. Et voilà, après ils ont perdu. Il y a plein de joueurs vétérans qui sont un peu partis. Ils ont ramené des vétérans, ils ont drafté, tout ça. Donc en gros, pour moi, ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur Carson Wentz. Est-ce que si Carson Wentz retrouve sa forme de 2017 ou du début de 2019 quand il avait beaucoup de cibles, si les joueurs-là, ils peuvent titiller n'importe qui en NFC. Si jamais il est un petit peu moins bon, il est moins en confiance, il se blesse parce que on dit. Non mais c'est quand même important, il s'est blessé toutes les saisons où il était en NFL. Donc ça reste quand même important de le mentionner. S'il se blesse, là c'est problématique. C'est problématique parce qu'après ce sera Jalen Hurts. Et Jalen Hurts c'est pas prêt je pense pour jouer
Non.
en NFL.
Non, je pense pas que Jalen Hurts soit prêt. Et c'est sûr que c'est malheureux pour les fans des Eagles qui nous écoutent, hein, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte, le fait que Wentz se blesse souvent. Tu l'as dit, je pense que tu as un peu tout résumé. J'ai l'impression qu'avec cette équipe des Eagles, on a des multiples possibles scénarios. Et il faut juste voir, clairement, si tu mets toutes les équipes, on va dire, à leur maximum du groupe des 5, je pense que je place les Eagles premiers. C'est juste qu'il y a trop de
Ok.
variantes. Pour moi, je vais le dire sans m'avancer, si tu places toutes les équipes à fond, ça joue entre Eagles et Buccaneers pour la meilleure équipe. Mais le problème,
Ok.
c'est que les variantes me font extrêmement peur du côté des Eagles, tout simplement.
Ouais, je rappelle juste que bon, on parle souvent de calendrier, hein. Ils vont aux 49ers, ils jouent les Ravens, ils vont aux Packers, ils jouent les Saints, ils jouent les Seahawks, ils jouent deux fois les Cowboys, ils vont aux Steelers, ils vont aux Rams, et ils vont aux Cardinals.
Ah, c'est.
Et aux Browns.
Je pense qu'on aura des réponses sur leur niveau très vite, très vite.
Voilà.
Après moi, j'ai. Ouais, vas-y.
Vas-y, vas-y. Non, je disais juste que les deux matchs, les 5 matchs faciles, c'est deux fois Giants, deux fois Redskins et Bengals. Le reste, il n'y a pas un match simple où tu dis le gagne.
Après moi, tu vois, je continue ma comparaison Atlanta. J'ai un peu peur que on ait 2 ans de retard avec cette équipe et qu'elle a déjà fini son cycle post-Super Bowl et qu'en fait, faudrait juste réentamer quelque chose de nouveau. Et qu'il faut, ouais, rebâtir, etc. On avance, à part si t'as quelque chose à rajouter, Alan, sur les
Non, c'est bon.
Eagles. Qui places-tu troisième? Moi, je t'annonce, j'ai les Cowboys, troisième.
Moi, j'ai Buccaneers.
Ah bah vas-y. Allez, je vais te griller la priorité, je vais aller avec les Cowboys parce que je sais qu'Alan
Vas-y.
a probablement les Cowboys très très... Non, allez, non, 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 je veux te laisser languiner et de essayer de d'anticiper ce que j'ai préparé sur les Cowboys. On va aller du côté des Buccaneers. Moi j'annonce les Buccaneers, après avoir réfléchi pendant qu'on parlait, je les ai comme les favoris. Pour le troisième, ce sera pour toi. Oui, un an après Cleveland, je cède à la hype de l'intersaison. Tom Brady, etc. Bruce Arians, magnifique.
Gronk.
Mike Evans et ses tatouages. Oui, je cède à ça. Alors, Alan, pourquoi tu crois aux Buccaneers comme un prétendant, mais peut-être pas comme le prétendant?
C'est tout bête, mais Tom Brady a beau être le héros de ma vie. Non, faut que les gens le savent, de toute façon. C'est quand même un. Il va être dans un environnement après 19 ans, 19 ans dans le même environnement. Il change d'environnement avec le virus du Covid et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui est intersaison, c'est compliqué. Il n'y aura pas d'OTA. Le training camp va être assez délicat. Alors, je te disais en off, Tom Brady est tellement un psychopathe que c'est sûr qu'il travaille déjà. Il s'est même trompé de maison à Tampa en essayant d'aller chez Byron Leftwich, le coordinateur. Il est rentré dans la mauvaise maison. Il y a la police qui l'a limite embarqué parce qu'il s'entraînait dans un parc avec d'autres receveurs. Donc, il y aura pas de soucis. Peut-être pas, ça sera pas optimal, mais connaissant Tom Brady, il va faire le maximum. Pour ce que je me dis juste, c'est. Tu vois. Je pourrais les mettre plus haut. La chose que j'aime pas du tout avec les Buccaneers, c'est quand ils disent, ouais, est-ce que Brady va pouvoir être bon dans le système de Bruce Arians? Non, mais attendez. Brady, il arrive, il va pas jouer le système de Bruce Arians. On se le dit tout de suite. Il va implanter beaucoup de ses concepts il va les montrer à Bruce Arians. Ça va pas être le même jeu, un jeu très vertical et tout ça. Sinon, tu signes pas Tom Brady. Même si il a un bon bras, il a toujours un bon bras, mais c'est pas pour ça que je signe Tom Brady. Mais je pense juste que c'est peut-être un an trop tôt, peut-être la deuxième année de Brady, donc peut-être sa dernière. Ça sera peut-être un petit peu mieux avec toute la progression incrémentale inhérente à la
Wow,
défense.
incrémental. Wow, il l'a placé.
J'ai dit incrémental, tu vois. À la défense, c'est une défense qui a été très bonne l'an passé. Todd Bowles, Monsieur, je blitz tous les. Tous les snaps. Mais je pense qu'on l'a peut-être un an trop tôt, même si, franchement, l'effectif, surtout défensivement, il commence à être blindé.
Alors, oui, défensivement, on va revenir là-dessus. Je parle toujours des fameux l'idée, voilà, de continuité par rapport à la saison dernière. Ils retrouvent leurs 11 titulaires défensifs pour une équipe qui était dans le top 5 des meilleures défenses. Je trouve ça très important. Avec, tu l'as dit, Todd Bowles, un très bon coordinateur, et une ligne que j'appelle un peu le cercle des poètes disparus, même Damien Kongsu, Jason Pierre-Paul. Enfin, vraiment, c'est une ligne qui personnellement me donne beaucoup, me fait particulièrement rêver. Derrière, on a le jeune linebacker Devin White, qui est la version propre de Roquan Smith. On a l'impression, avec des meilleures fréquentations. Hein. Bref, on a plus Chris Conte dans le backfield
Qui
défensif.
est-ce que tu es? Qui est-ce que tu veux? Ce que tu voulais en Patrick Quinn, en gros. Devin White.
Ouais, oui, voilà, exactement. Ça serait tellement parfait.
Et David aussi. David est bon aussi.
Et la volonté
David.
David, qui est toujours une valeur sûre au poste de linebacker. La défense, je pense qu'on peut dire sans trop s'avancer qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire. C'est vrai qu'au niveau de l'attaque, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, Brady a 43 ans, et là, personne, je dis bien, personne ne peut faire des pronostics parce qu'on entre vraiment en territoire inconnu. On ne sait pas ce que peut faire un quarterback à cet âge-là, surtout quand il change de système, il change d'environnement. Tampa, les joueurs le disent assez, en septembre, il fait 150 degrés, c'est une fournaise, c'est insupportable, on n'est pas au Gillette Stadium, extrêmement difficile. Après, pour défendre un peu ça, je me dis que quand je regarde cette équipe, on avait quelques craintes. Bah déjà, on a été sélectionné Tristan Wirfs du côté de la draft, et on le met du côté droit de la ligne, ce qui était une petite question qu'il y avait du côté des spécialistes draft. On le met du côté droit de la ligne, le meilleur poste pour qu'ils produisent. Ensuite, Alan, tu es fan des Patriots, tu sais bien que beaucoup de fans de ta fanbase ont souvent critiqué l'incapacité de la franchise à entourer Tom Brady. Là, je veux dire Mike Evans, Chris Godwin, et je pourrais continuer la liste. Il est entouré, il est vraiment entouré.
C'est clair.
Et enfin, je pense qu'on va donner à Mike Evans ce qu'il mérite. Déjà parce qu'il m'a fait gagner une fantasy un jour. Et surtout parce que c'est quand même un receveur. Quand on fait ce classement des meilleurs receveurs, on le met jamais. Alors qu'il a la production pour lui avec Jamis. Donc je pense que c'est quand même, ça mérite d'être cité. Puis la grande question en attaque, c'est surtout celle du poste de running back, j'ai l'impression. On sait pas trop. Ce qui est un peu la question, attend pas depuis la fin de Doug Martin, tu vois. Y a Ronald Jones qui a produit. Ils ont sélectionné Keyshawn Vaughn. Enfin bref. Il y a des tentatives, mais, et là, j'appuie là où ça fait mal. Alan, c'est pas toi qui vas me dire que le poste de running back titulaire, c'est un problème, parce que tu me défends toujours qu'on peut faire produire beaucoup de personnes. Non. Donc, Ouais, vas-y.
C'est vrai. Par contre, c'est essentiel d'avoir un running back qui peut attraper des balles avec Brady.
Oui, c'est sûr, ça, t'es bien placé pour le dire. Donc, je me dis juste que si Bruce Arians, et il va le faire, il est pas stupide, parce qu'on sait qu'on est sur un projet sur quoi? Sur un an, voire deux, adapte un peu son système. C'est une équipe qui a vraiment qui est blindée quoi. Et puis on en parlait en off. Brady, alors c'est, je vais blasphémer. Peut-être que Brady sur le sommet du sommet de Jameis est pas capable de faire ce que peut faire Jameis, c'est-à-dire s'échapper de la poche, courir un peu, balancer des bombes et tout. Mais je pense que il est très très loin d'offrir les crevasses que va nous offrir Jameis. Et si t'es une équipe qui a des ambitions comme va l'avoir Tampa, si tu joues des quatrièmes cartons importants, si tu joues des matchs de playoff, bah Brady a peut-être 43 ans, tu sais que il va pas faire des erreurs mentales totalement stupides qui vont te ruiner ta saison. Donc je me dis que de toutes les équipes dont on va parler, c'est celle qui a le plus de certitude. Je pourrais dire ça comme ça.
L'année dernière, ils avaient gagné 7 matchs, alors que Jameis lance 30 interceptions, dont 8 pick-six.
Imagine.
7 ou 8 pick-six. Brady n'en sera peut-être pas 30 touchdowns, hein. Il en lancera peut-être entre 24 et 28, mais il en sera 10 interceptions max, le connaissant. Donc, c'est rien que ça. T'imagines une vingtaine de possessions en plus.
C'est énorme.
C'est énorme. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça. Il n'aura peut-être pas les... En fait, il n'aura pas les hauts de Jameis, mais il n'aura pas les bas de Jameis, qui sont aussi...
Qui sont plus dévastateurs en soi.
Mais oui, qui sont plus dévastateurs et qui font que c'est pour ça que Jameis n'est plus un titulaire aujourd'hui en NFL, alors que c'est un premier choix de draft qui avait un pedigree quand même. Donc, et qui lance beaucoup de touchdowns. Donc ouais, je suis d'accord avec ça. Je me pose des questions. Poste de tight end, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a Gronk. Mais il y a aussi Howard,
Cameron Brait, ouais.
Ouais, Brait. Brady adore les tight ends. Enfin, c'est classe. Après, moi, je me dis ça, et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. On dit Brady adore ci, adore ça, mais c'est parce qu'il a eu ça pendant 20 ans aussi. C'est-à-dire que quand Brady, entre 2007 et 2010, avait Moss, Welker, tout ça, il ne lançait pas à des tight ends. Hein. Ensuite, on lui a implanté les deux tight ends, il a lancé aux deux tight ends. Moi, je pense qu'il peut faire beaucoup de choses différentes. Ce qu'il faut, par contre, oui, c'est un running back qui attrape les ballons. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'ils ont, de ce qu'on pouvait dire sur Keyshawn Vaughn ou sur un autre, l'autre, ils ont drafté un autre plus tard, c'est que c'est des receveurs qui sont solides avec leurs mains. Ça me surprend pas du tout qu'ils aient été sélectionnés, alors. Parce que ça, c'est vraiment important. Après, ce qui est intéressant, voilà, c'est ça, Brady, l'attaque et la progression des DB. Ils ont des DB très jeunes, très physiques. Très long. Si ces joueurs-là prennent une autre dimension encore cette année, alors là, ouais, là vraiment, je pense que pour défendre en plus les Falcons, les Saints et les autres équipes qui vont devoir jouer, parce qu'ils vont devoir jouer aussi Kansas City, les Packers, les Broncos et les Raiders, il va falloir cette progression des DB, même si le front 7, on parlait de front 7. Des Redskins très très fort, le front 7 des Buccaneers est aussi puissant que rapide, et donc avec chaque Barrett en plus qui revient, qui fera peut-être pas la même saison
probablement
que l'année
pas passée.
Non, mais qui est quand même un joueur qui va t'apporter de la pression
totalement. Puis tu vois, si on repense un peu à la base de cet épisode, c'est-à-dire qui peut venir est le mieux placé pour inquiéter 49ers et Saints, je me dis qu'on est face à une défense qui bloquera le jeu au sol de ces deux équipes, qui est fondamentale dans leur jeu offensif, fondamentale, et que de l'autre côté, bah autant c'est, alors Si tu devais mettre un point d'interrogation, je pense à la défense des 49ers, c'est à coup sur le backfield offensif. Sherman a 32 piges maintenant. Il y a toujours la question, on en a parlé, du second corner. Enfin bref, il y a pas mal de questions à ce côté-là. Du côté des Saints, alors il y a aussi un très bon backfield défensif, mais je pense qu'aucun des deux est taillé pour arrêter les Evans, les Goodwin, les peut-être Gronk, on ne sait pas comment il va revenir, bien sûr. Enfin, c'est une équipe qui pose dans sa construction des vrais problèmes dans un potentiel affrontement en playoff aux 49ers et aux Saints.
Ouais, ouais. Puis la ligne est un peu. Elle est pas énorme, elle est pas exceptionnelle, elle est un peu sous-cotée à l'intérieur. Ryan Johnson, j'ai pu le voir l'an passé, que tu le connais aussi bien, c'est vraiment un bon joueur. C'est peut-être pas le meilleur centre du monde, comment il a été payé, mais c'est un bon joueur. Ali Marpet, c'est solide. Et Brady, avec son jeu de passe rapide aussi, il te protège la ligne. Il permet à ce qu'elle rende un meilleur visu qu'elle est peut-être réellement. Et donc ça va aider aussi. Contrairement à James, qui des fois restait 3-4 secondes dans sa poche avec la balle. Et bon, au bout d'un moment, on peut pas bloquer tout le monde pendant 5 secondes, c'est normal.
Totalement. Et ben, on peut continuer à remonter les classements. Si tu m'as pas mis les Buccaneers 3, je sais qui tu m'as mis 3, Alan, je te connais beaucoup trop bien. Donc là, tu vas me dire que, enfin 3, la deuxième équipe selon toi la plus proche pour la troisième place, c'est un peu compliqué, donc on est cinquième en NFC là. Non, on est quatrième en NFC, pardon, tu vas partir du côté des Seahawks.
Et non.
Oh là là, il a fait exprès.
J'ai les Seahawks en premier, ouais, j'ai les Seahawks en premier.
Alors tu vas nous parler des Cowboys.
Cowboys. Parce que je suis aussi très présent dans le train Cowboys. Le train Cowboys.
Et parfois, tu me mets dedans aussi alors que j'ai pas composté mon ticket. Tu vois. Enfin, j'ai.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'accueille du monde dans le train. Qu'est-ce que je. Bon, comment commencer sans. C'est un petit peu comme les Eagles. Il y a eu des pertes et des ajouts. Ils ont perdu quand même des joueurs importants, les Cowboys. Byron Jones, Travis Frederick, qui a pris sa retraite, ton pote Robert Quinn, c'est ton meilleur ami dans le podcast. Non mais là, c'est décidé.
Ouais, ouais, je pense que c'est mon. Donc c'est un joueur que j'adorais, je prenais toujours sur Madden. Je ferme la parenthèse.
Ouais. Malik Collins, c'est un bon joueur, sous-côté de leur ligne qui est parti du côté des Raiders. Après, ils ont perdu d'autres joueurs, Randall Cobb, Jason Witten, ça c'est peut-être positif. Et Jeff Heath, c'est extrêmement positif. ce safety, c'est très positif. Ils ont remplacé avec des vétérans. C'est-à-dire que pour la ligne, bon, ils se sont dit, on a perdu des joueurs. Ils ont été bas. Ils ont appelé Carolina. Vous tankez, bon, re-signez pas McCoy et Poe. On les accueille. Et puis, ils ont pris le joueur avec le meilleur prénom de NFL, c'est AA. AA Clinton Dix. En safety, qui est un safety moyen. Ça, c'est moyen. Il va remplacer Jeff Heath. Et ça sera pas mal.
Une amélioration.
Tout le monde est chaud sur les Cowboys aussi, parce qu'à cause de la draft, on va pas se mentir. Ils ont été un peu couronnés, et c'est un truc bon qui est. On sait pas trop quoi. Mais ils ont été un peu couronnés, un peu gagnants de la draft, parce que bon, ils ont drafté CeeDee Lamb, ils ont drafté des joueurs que beaucoup pensent capables d'être starters directement dans leur défense. Moi, pourquoi j'ai les Cowboys deuxième, donc devant les Buccaneers, les Eagles et les Packers? Continuité au poste de quarterback? Avec Dak Prescott. En termes de décision de coaching staff en match, Mike McCarthy fera mieux que Jason Garrett. Il saura gagner les matchs qu'il faut gagner, ne pas perdre ce qu'il faut pas perdre. Et je me dis que l'effectif est vraiment bon. Paire de linebacker, Van Der Esch, Smith, ils sont bons un peu partout. Ils ont de très bons receveurs, la ligne est toujours bonne, Zeke Elliott est toujours un très bon running back. Je me dis, en termes de talent, c'est pas possible qu'au bout d'un moment, ils sous-performent année après année. Et donc, je me dis, voilà, ils peuvent battre les Saints et les 49ers, je pense, sur un match.
Je vais te laisser, tu as déjà parlé, mais je vais te laisser continuer parce que tu as parlé beaucoup du talent des Cowboys. Allez, si je te dis de me citer les quelques talents selon toi, les quelques talents centraux, quoi, les clés de voûte de l'effectif, ouais, des Cowboys, tu citerais qui? Non, parce que je te demande ça, tu vois, je suis mauvais fondamentalement, donc si je te demande ça, c'est que ça sert à dessin après.
C'est ça. Jalen Smith, Leighton Van Der Esch, Amari Cooper, Dak Prescott, qui a prouvé que pour moi il était un quarterback top 10, dans la partie descendante du top 10, hein, pas dans l'autre.
Zach Martin, peut-être.
Zach Martin, Lyle Collins, peut-être. Plus Tyron Smith, malheureusement, qui n'est plus un top 3 left tackle, je pense. Hein. Et il y avait, bah, y avait Travis Frederick et Byron Jones qui sont plus dans l'effectif.
DeMarcus Lawrence, peut-être. J'ai pas suivi. Et peut-être Ezekiel Elliott. Enfin, et la question Ezekiel Elliott.
Ouais. DeMarcus Lawrence, ouais. Il est peut-être surpayé, mais c'est un très solide edge. Ouais.
Alors, si j'ai demandé ça, c'est que quand on fait cette liste, et c'est mon inquiétude avec les Cowboys, ça penche quand même sévèrement vers l'attaque. Sévèrement. C'est-à-dire qu'il y a trois joueurs qu'on pourrait dire, voilà, les Américains aiment bien utiliser cette expression blue chip players, tu vois, les joueurs sur lesquels on peut se reposer. Et moi, c'est ça qui me fait assez peur. Encore une fois, j'utilise toujours cette stat, celle des snaps qui reviennent. Les Cowboys sont 30e. 30e, il y a 5 starters qui sont potentiellement de retour. Et moi, ça me fait très très peur quand, par exemple, tu as perdu. Alors, c'est mon ami, on a perdu Robert Quinn, mais Robert Quinn était leader au niveau des sacks, par
Très
exemple.
bonne saison, là, fait, ouais.
Il a, tu vois, une vraie vraie bonne saison, profitant bien sûr du fait que DeMarcus Lawrence avait plus de pression, enfin était plus peut-être plus surveillé, etc. Bref, passons. J'ai là où je suis pas un Enfin, si j'ai des inquiétudes sur l'attaque, j'ai surtout peur par rapport à l'incapacité de la défense, alors que c'est sur ça qu'a été vendu quand même sur ça qu'ont été vendus les Cowboys ces dernières années. Jeu au sol, grosse défense, Prescott qui fait des coups. J'ai un peu peur que l'ADN de l'équipe a été un petit peu génétiquement modifié et qu'on n'a plus vraiment les réponses en défense. Le backfield défensif, tu l'as dit, il y a peut-être eu l'arrivée de Clinton Dix, mais moi j'ai un peu peur au niveau du poste de corner. Byron Jones, c'est un excellent corner. Comment tu vas le remplacer? T'as sélectionné Trevon Diggs, ok, enfin, tu vois, bien sûr, je te rejoins sur pas mal de points, mais vu que là, on joue vraiment on est sur un niveau d'excellence
Sur
où,
2020,
ouais,
sur le 2020 maintenant.
ça joue à très peu entre toutes ces équipes dont on parle. Je suis vraiment inquiet sur la capacité de cette défense à pas forcément répondre toujours présente. Et puis, je veux pas tomber dans l'analyse de barres PMU, même si les barres PMU parlent pas de NFL, bref. Bah, les Cowboys, depuis 2016, c'est 6-17 contre les bilans positifs, contre les équipes au bilan positif, et c'est 5-13 contre les équipes à plus de 10 victoires. 5-13. Enfin, je veux dire, ils sont pas bons contre les équipes à plus de 10, contre les le et ça on le sait en fait, les Cowboys, c'est un géant de papier qui écrase les petites équipes et qui a plus de mal contre les grosses. Et je me dis que là où bien sûr Jason Garrett mérite d'être critiqué pour ses résultats par rapport à sa fait qu'il est extrêmement frileux dans certaines prises de décision, c'est pas son seul fait. C'est pas son seul fait d'avoir une incapacité à battre les grosses équipes. Donc globalement, j'ai l'impression que ça pourra être ces Cowboys. Peut-être qu'ils finiront la saison régulière devant les 49ers ou les Saints, mais j'ai du mal à les voir battre une de ces deux équipes dans un affrontement de
Ok.
playoffs.
Ouais, c'est vrai que ils ont pas de marquée victoire, comme disent les Américains, victoire qui compte, voilà, qui montre que qui sont à ce niveau. Rien que l'année dernière, c'est hyper décevant. Enfin, franchement, ils n'arrivent pas à gagner la division face à des Eagles qui étaient dans un état de blessure. Alors qu'ils n'ont pas eu trop de blessures l'année passée, franchement, les Cowboys. Hein. C'est de la sous-performance individuelle, match après match. Donc,
Mais il sous-performe depuis combien d'années? On va mettre les pieds dans le plat. J'ai vu des tweets sur ça, tu vois, quand je préparais l'émission, puis même ça fait longtemps que je vois ce genre de tweets qui se demandent si c'est pas sur les 3-4 dernières années l'équipe qui sous-performe le plus, ces Cowboys.
si, depuis la deuxième année de Prescott, parce que la première année de Prescott, c'est la super surprise. Romo se blesse en pré-saison, Prescott est là, saison rookie de Elliott, et ils vont en playoff, ils perdent au Divisional contre les Packers sur la passe de Rodgers de folie là, le long de la ligne. Et après, depuis là, ils ont été une fois en playoff et ils ont perdu contre les Rams. Donc ouais. Oui, ça sous-performe en termes de talent. Oui, je suis d'accord. Tout le monde disait, ah, ils ont la meilleure ligne, ils ont Zeke, ils ont été récupérés à Mary Cooper. Oh, ouais, non, ça sous-performe, mais moi j'espère que ça va plus sous-performer cette année. Je me dis qu'il peut y avoir un déclic, nouveau coaching staff. Chris Richard reste du côté de la défense avec Mike Nolan qui vient des Saints. Donc Ouais, j'ai assez espoir qu'en fait que il y ait peut-être un déclic. En fait, pour moi, c'est mental. Et en plus, on dit ça, je suis à 10 000 km de Dallas et je suis pas en contact avec Jerry Jones. Mais pour moi, ils ont tout pour y arriver. Après, il faut voir, ils ont aussi, et je te laisserai ensuite, un calendrier assez compliqué. Ils vont à Seattle, à Baltimore, ils jouent les 49ers à la maison, deux fois les Eagles, aux Rams, aux Vikings. C'est pas un calendrier hyper, hyper facile. Donc, faudra voir. Comme les Eagles, les équipes de la NFC Est ont le calendrier les plus difficiles de la liste.
Puis on parle beaucoup, on cite beaucoup son nom, mais Dak Prescott, il reste quand même sur un flou artistique en ce moment, un imbroglio assez incroyable où, enfin, il n'y a toujours pas de contrat
Oui, faut en parler de
signé,
ça aussi. Ouais.
etc. Enfin, comment il va revenir? Déjà qu'on n'a aucune idée de comment va se dérouler cette saison. En plus, pour un Prescott qui est en négociation depuis quoi? Depuis un an maintenant, presque. Il y a cette question-là qui se pose aussi. Donc, bref, j'ai l'impression que, alors c'est facile, j'ai l'impression de dire ça pour toutes les équipes, mais eux, c'est vraiment l'année où il faut performer cette année-là. Et je me demande si
Ok.
on dit ça dans le discours, mais en réalité, c'était pas déjà l'année dernière où fallait faire ça. Parce que l'année
Ah,
dernière, t'avais toujours les Byron Jones, t'avais, enfin bref.
c'était ouvert la division l'année dernière. C'était ouvert. Et ensuite, t'aurais pu recevoir les Seahawks au premier tour des playoffs. Et là, ils auraient pu faire quelque chose. Ils les avaient battus l'année d'avant. Les Seahawks au premier tour des playoffs. Ensuite, avant d'aller perdre aux Rams. Bah oui, non, mais je suis. Non, mais. Plus tu me parles, plus tu me fais
Et c'est
douter, parce
d'ailleurs un
que
match, tu
c'est.
vois, on revient sur le match de Seahawks, ce qui est un peu, si on écarte le match Cowboys, tu l'as dit, c'est un peu particulier, le match Cowboys Packers, le match des Seahawks, ils le gagnent Cowboys Stadium, ils sont pas loin de le perdre celui-là quand même. Enfin, il y a des
Ils le
moments où
gagnent parce que les Seahawks le perdent.
ouais.
Je suis d'accord avec
En
ça.
fait,
Oui.
j'ai pas la substance de c'était. Alors, on va me dire, c'est bizarre pour un mec qui a défendu Tampa il y a 3 minutes 30 de dire que t'as pas la substance dans les grands matchs du côté des Cowboys. Mais au moins avec les Buccaneers, je peux me dire que déjà c'est une équipe qui a jamais été mise dans cette position-là. C'est-à-dire que c'est déjà une première différence.
Ouais,
C'est-à-dire que
t'as pas pu le voir,
tu peux
mais.
pas dire qu'ils sont pas capables de le faire. C'est juste que tu l'as pas vu encore. Puis t'as Brady, t'as Bruce Arians, t'as un coaching staff d'expérience, t'as le GOAT. Enfin bref, t'as des trucs. Les Cowboys ont été mis dans cette situation-là. Et c'est quoi la victoire marquante des Cowboys? C'est leur Thursday night contre les Saints, justement, et ils gagnent 13 à 10. Enfin, c'est quand même
Ah
faible.
oui, ce match,
C'est
oui.
faible pour une équipe avec si peu de talent qui est souvent mise au premier plan. Moi, je trouve ça extrêmement faible. Après, encore une fois, hein, je les classe très haut, les Cowboys. J'ai les Cowboys comme dans le top 3 des poursuivants, dans le top 3, non, des favoris. C'est juste que je vois peut-être plus ce qu'on leur prête comme crédit à l'heure actuelle. Enfin, j'ai pas eu ces dernières années assez de preuves pour continuer à leur renouveler ma confiance.
Et c'est, j'entends très bien. Ça va être très intéressant de voir. Ils vont avoir besoin aussi que, parce que là, ils ont laissé partir des joueurs à des postes clés parce qu'ils pouvaient pas payer tout le monde. Malheureusement, on va dire le contrat de Zeke Elliott.
Ah, running back Alan.
Non, mais. Et en plus, c'est même pas là, c'est que vu que tu l'as sélectionné si haut, t'es obligé de le payer, en fait. Publiquement, tu vois.
Relations publiques.
Ouais, tu vois, t'es limite obligé. Comme Gurley avec les Rams. Et donc, ils l'ont payé et ça leur pose souci parce qu'à cause de ça, franchement, hein, ils auraient été mieux. Dans l'effectif aujourd'hui, tu préfères avoir Byron Jones ou Zeke Elliott.
Byron Jones, tu poses très bien tes questions, mais Byron Jones.
Non, mais le poste de corner est franchement important. Tu l'as dit, tout le monde joue avec un nickel aujourd'hui, donc c'est trois corners titulaires qu'il faut aujourd'hui, hein, au moins. C'est qui les trois corners titulaires aujourd'hui aux Cowboys?
Bah,
Chidobe Awuzie.
t'es obligé de mettre Trevon Diggs, t'as mis un second tour sur lui, donc t'es
Ouais,
plus ou moins
Diggs
obligé.
va avoir du temps de jeu, Awuzie, et puis l'autre c'est soit Jordan Lewis ou Anthony Brown.
Est-ce que c'est pas le backfield défensif le plus faible de toutes les équipes dont on a
Si, si,
parlé?
si, 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 si. Avec Xavier Woods et Akiton Dix en titulaire en safety, si. C'est le backfield défensif le plus
Et
faible.
puis maintenant, t'as plus la
Après, Chris
pression de Robert
Richard et.
Quinn. Enfin bref, je te laisserai finir, mais tu vois, t'as plus la pression de Robert Quinn.
Non, t'as très bons arguments. Ouais. Non. Chris Richard est un peu un spécialiste des DB aussi. Il était aux Seahawks. Il va vraiment devoir coacher à fond ces joueurs-là pour que ça progresse et que ça se fasse pas tamponner. Donc ouais, surtout quand tu vas jouer contre les contre tes QB comme ils vont jouer Russell Wilson, ils vont jouer Lamar, ils vont jouer deux fois les Eagles, Pittsburgh, les Rams, les Vikings. Ouais, ça va être très 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 intéressant. Ils vont jouer les Falcons. Parce que tu vois, j'ai mis dans les matchs qui devraient gagner Falcons et Arizona, mais
On en
si
parlera
c'est si
d'Arizona. On en
voilà,
parlera juste.
si l'attaque pète tout, c'est que leurs corners sont à la rue, ça peut les mettre dans un match compliqué. Hein.
Mais tu vois, pour peut-être conclure le chapitre Dallas, j'ai juste l'impression que c'est une équipe qui doit, si son attaque est pas top 3 NFL, elle est plus ou moins cuite.
Ok. Je pense qu'ils auront une défense entre 18 et 25.
Peut-être un peu moins. L'année dernière, ils étaient, si tu vois, tu prends le DVOA, ils étaient 19e. Je pense qu'ils seront entre 10 et 20, 22, 23
Ok.
encore. Et quant à ça,
Ok.
si tu veux aller loin en playoff, il faut que tu aies une attaque de fou furieux. Enfin,
Oh
c'est
ouais, il faut mettre 30 points par match.
à voir. Est-ce qu'ils vont être encore capables de faire ça? À vous de juger. Et là, je suis surpris parce que je vais aller du côté de la NFC West. Avec Seattle, Alan. Donc pour toi, Seattle, donc tu as critiqué la gestion des dirigeants, c'est le principal danger pour les Saints et les 49ers. Est-ce que c'est un danger qui se résume en deux mots, Russell Wilson?
Ouais, oui, Russell Wilson. Et le fait que ça pourrait pas être un danger, c'est Pete Carroll.
Deux mots aussi.
Voilà. Pete Carroll est un excellent coach, un excellent bâtisseur de dynastie. Il a fait ouais, tous les niveaux du foot US. Mais son incapacité à sa capacité à enlever le ballon des mains de Russell Wilson ou à se dire qu'il faut lui donner que dans les derniers quart-temps des matchs importants. Ça me rend fou. Et je pense que ça me rend. Je suis pas le seul. Je pense que les fans de Seattle sortent des dernières campagnes de playoffs extrêmement frustrés de matchs qu'ils auraient dû gagner, qu'ils auraient pu gagner. Aux Packers. C'est-à-dire que certains choix sont critiquables. La première mi-temps, comment ils gèrent leur attaque, c'est critiquable ce qui fait qu'ils sont menés de 14 points, je crois. Contre les Cowboys il y a 2 ans, tu l'as dit, c'était pas fou furieux du côté des Cowboys, ils auraient pu gagner, mais non, ils ont préféré donner la balle à Chris Carson pendant 50 fois pendant le match. Donc je me dis juste qu'ils ont Russell Wilson, ils ont perdu des joueurs, ils ont perdu Jadeveon Clowney, ils ont perdu des joueurs de leur défense un petit peu, peut-être pas hyper importants, mais des joueurs de rotation, quoi, Ziggy Ansah, Quinton Jefferson. Si tu regardes du côté des arrivées, c'est maigre. Bruce Irvin, comeback. Du côté des Seahawks, mon pote Philippe Dorsett, cible longue pour Russell Wilson, Greg Olsen. Ils ont pris Carlos Hyde, jamais assez de running back.
Dorsett qui choisit, juste Dorsett qui choisit quand même extrêmement bien ses équipes. Hein, parce qu'il est jamais.
Ouais,
Bref.
oui, c'est vrai. Il avait été tradé, il n'avait pas choisi d'aller à New
Ouais.
England, mais il avait re-signé. Il avait re-signé à New England, donc il avait choisi. Après, voilà, ils ont drafté ce qu'ils ont drafté. C'est-à-dire que c'est toujours une équipe qui va drafter. Elle s'en fiche de ce que pensent les autres. Il n'en a rien à faire d'être critiqué par la draft et dire, oh, nous, on veut ce joueur-là. Il va faire ça pour nous. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris Jordan Brooks. Là, il reste un problème. Ils ont envoyé des billes. BJ Finney, Brandon Shell, Cedric Ogbui. Ils ont viré DJ Fluker et George Fant. Ils ont plus Josh Gordon, on sait pas ce qui va se passer avec Josh Gordon non plus du côté de l'attaque. Je me dis, il y a Russell Wilson qui est un top 3 QB NFL. Il y a DK Metcalf en année 2, Tyler Lockett. La défense, elle s'améliore par rapport. J'avais parlé dans certains épisodes qu'il y avait eu un. Russell Wilson avait masqué la mini reconstruction du côté des Seahawks. Là, il y a des joueurs qui montent dans cette défense quand même. Shaquille Griffin. Flowers, l'autre corner, ils ont tradé pour Quinton Dunbar. Alors je sais pas dans quel état il va être Quinton Dunbar, parce que c'est lui qui était avec DeAndre Baker, je crois, en Floride.
Ce qui va être libre de ses
Oui,
mouvements déjà.
oui c'est ça, oui, c'est ça, le gang des postiches. Hein. Mais il y a des Quandre Diggs qui va être là pour aider un peu cette défense. Et je me dis qu'ils seront là. Ils sont toujours là en fait. Ils sont toujours là les Seahawks. Et il y a Russell Wilson. Il a 31 ans. Il est toujours dans son prime. C'est le meilleur joueur de ce qu'on a parlé depuis le début du podcast. Donc rien que pour ça, avec ma vision très QB centrée, eh bien je dis que c'est eux qui peuvent battre les 49ers. Ils l'ont fait.
C'est vrai.
Et ils avaient perdu contre les Saints à la maison l'an passé contre Teddy Bridgewater, mais je pense qu'ils peuvent aussi battre les Saints sur un match.
Alors, t'as dit beaucoup de choses. Je te rejoins sur un truc. Je pense déjà que je parlais de la stabilité des Packers. Ça reste quand même. J'avais relevé cette stat. Les Seahawks, ça va toujours en playoff. Les Seahawks, t'as l'impression chaque année, tu te dis, mais c'est construit de brick and broc et ça va toujours en playoff. Et souvent, ça gagne un match. Ce qui fait que si tu réfléchis notre problème comme l'équipe la plus dangereuse, tu te dis que ils vont probablement jouer peut-être les Saints et les 49ers si c'est une saison classique des Seahawks. T'as bien sûr renommé l'argument Russell Wilson, c'est ce qui forcément les fait que leur cote est un petit peu surévaluée peut-être dans ce classement-là, parce que c'est le meilleur quarterback NFC, c'est le deuxième meilleur quarterback de la NFL, donc forcément, je balance, tu vois là je balance des takes,
Non, je suis d'accord avec toi.
forcément, il y a des arguments. T'as parlé du groupe de receveurs, ça reste quand même, tu vois, t'as cité Tyler Lockett, DK Metcalf, pardon, pas DJ Metcalf, DK Metcalf, ça reste quand même, derrière, ça reste un peu faible, tu vois. Ils ont pas signé Paul Richardson. Enfin, ça manque peut-être un peu de quelques billes. Alors, il y a toujours poste tight end. Enfin, j'ai l'impression qu'on a, c'est un poste que depuis que je suis la NFL n'a jamais été vraiment dominant du côté. Même s'il y a eu l'interlude Jimmy Graham. Enfin, bref, passons.
Ils ont pris Greg Olsen.
Ouais, mais tu vois, est-ce que c'est vraiment, enfin, bref. Surtout que Greg Olsen, il a quand même. Est-ce que Greg Olsen, il a pas deux, un pied et quatre orteils dans le salon des commentateurs plutôt que sur le terrain NFL? Bref. Moi, ma vraie question, et c'est bizarre que on se pose ça avec les Seahawks, c'est un peu le pass rush quand même. T'as parlé du retour de Bruce Irvin. Alors, Jadeveon Clowney est, enfin, c'est un peu Scottie Pippen dans The Last Dance. Tu sais pas, il est à où? En fait, personne sait où est Jadeveon Clowney. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est pour l'instant pas à Seattle et on a l'impression que les négociations étaient brisées. Donc, c'est
Ziggy Ansah aussi.
Ziggy Ansah aussi. Apparemment, il serait en contact avec Everson Griffin, mais il n'y a rien de signé. Alors, ils attendent toujours de la production de LJ Collier, mais j'ai un petit peu peur au niveau du pass rush. Après, tu l'as dit, c'est Seattle. On leur fait confiance pour créer de la pression sur le quarterback adverse. Mais c'est quand même une équipe qui a souvent créé de la pression sur le nombre. En envoyant 5-6 pass rushers différents, et tu vois, c'est infernal, c'est un cycle infernal, et il y a au bout d'un moment où tes linemen s'essoufflent à la fin du match. J'ai l'impression qu'ils ont plus ces 5,
Cette profondeur,
ouais, ils
quoi.
ont plus cette profondeur-là, et que Clowney a peut-être un peu masqué ça, parce que Clowney est un excellent joueur, on est tous les deux d'accord là-dessus, mais je me demande si, face à des équipes, on parle Seahawks, 49ers, Cowboys, on a parlé même Buccaneers, la plupart ont des bonnes lignes, en fait. Donc, tu vas devoir créer vraiment de la pression, il va falloir y aller. Je me demande si ça va être suffisant du côté des Sioux. J'ai envie de les placer haut, mais je me dis, est-ce qu'à un moment, et c'est quand même, ça serait l'ironie de l'histoire, est-ce que c'est pas leur défense qui va leur faire défaut?
Ah mais je pense que depuis 3 ans, l'attaque est meilleure que la défense. Et l'attaque, elle est même pas à son paroxysme. Elle est pas beaucoup dit ça. Ça pourrait être encore plus tranchant, encore plus dévastateur si. Après, c'est est-ce que Russell Wilson est un joueur qui est capable de jouer avec beaucoup de passes et moins de play action? Je sais pas. Je pense. C'est un excellent QB NFL. Je suis d'accord avec toi sur la ligne, ouais. En fait, ils ont perdu en termes de talent avec Jadeveon Clowney, mais ils ont perdu en termes de rotation aussi. C'est con, mais c'est toujours pas connu. Hein, mais Quinton Jefferson, on le voyait souvent avec les Seahawks, s'il faisait des bonnes choses. Bon, Ziggy Ansah, il est plus trop performant malheureusement. Ils ont perdu voilà, en termes de nombre. Ça va être, ils auront besoin, comme beaucoup d'équipes, on est en NFL, la draft est plus importante que dans d'autres sports, que leurs joueurs draftés fonctionne. LJ Collier premier tour l'an passé, Darrell Taylor deuxième tour cette année. Il va falloir que ces joueurs-là rentrent dans la rotation d'emblée.
Puis tu vois, quand on parle de solutions comme peut-être ramener le fantôme de Clay Matthews, moi ça me rassure pas vraiment. Hein,
Ouais, non.
c'est pas des pour une rotation et encore, enfin c'est pas des noms qui sont vraiment rassurants pour une équipe qui a ces intentions-là. Après, je vais passer comme le monsieur négativité de ce podcast. C'est juste, j'aime bien pointer du doigt la petite faiblesse à chaque fois et je pense que ouais,
Il
peut-être
faut, il faut.
c'est cette ligne défensive pourrait faire défaut. Après, je parle à Alan PFF, donc la couverture est plus importante que le pass rush. C'est un des 12 commandements de PFF que je vous invite à aller lire. Donc, ouais. C'est en fait c'est bête hein, mais même sans être QB centré, t'as quand même, tu te dis Russell Wilson, tu l'as dit, il a battu les 49ers quand même sur un match en prime time où et où par contre c'est là où ça fait un petit peu mal. Clooney est stratosphérique, Clooney marche sur l'eau.
Ouais, Clooney incroyable. Clooney, c'est pas dans les stats de sac et tout ça qui où tu vois son véritable impact. C'est parce qu'il a toujours deux mecs sur lui en fait, donc c'est difficile d'aller sur le QB, mais c'est juste dans le fait qu'il est, il casse le jeu en fait, il casse la première ou la deuxième option parce qu'il te brise la poche d'un coup, ou il te, et ouais, il va vraiment manquer aux Seahawks sur ce plan-là. Ils ont pas ce joueur, ce talent-là en défense, et c'est pas possible de l'avoir d'emblée à la draft quand tu draftes aussi loin. Ou avec en termes de cap de pouvoir le signer aussi facilement, donc c'est normal que leur défense soit un peu moins forte sans Jadeveon Clowney. Après, le schéma est important aussi du côté de Seattle. C'est pour ça que c'était hyper intéressant de voir Clowney, parce que là c'était genre la grosse individualité qui va venir aider le schéma qui est super fort déjà implanté. Donc là, ça va être un peu intéressant. Il reste avec Bobby Wagner et tout ça, très 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 solide en défense au milieu, la colonne vertébrale, l'intérieur de la ligne, les linebackers, les postes de safety, c'est sûr du côté de Seattle. Donc à voir, mais je parie pas contre Russell Wilson.
Alors pour peut-être avancer, parce qu'on s'approche de l'heure et demie et on n'a pas encore parlé des poursuivants, Alan. Résume du coup ton top 5 des favoris pour accrocher cette troisième place du côté de la NFC.
Ouais. Seahawks en numéro 1, les Dallas Cowboys en 2, les Buccaneers en 3, les Eagles de Philadelphie en 4 et les Packers de Green Bay en 5.
Ok, je vais aller dans l'autre sens. Packers dernier, Eagles, on se rejoint là-dessus. Packers 5, Eagles 4. Ensuite, j'avais Cowboys 3. Seattle 2, Buccaneers 1. Ce qui fait qu'en gros, si on associe nos deux classements, bah, ça serait plutôt Seattle, le vrai danger. Ce qui est quand même logique, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui passe à un cheveu d'avoir l'avantage du terrain sur toute la campagne en NFC. C'est pas quand même dénué de sens. Il nous reste quelques équipes à aborder, Alan, dans ce long portrait de la NFC. Les équipes que tu as voulu mettre parmi les poursuivants. Alors, on en a un petit peu parlé. Comment tu définirais un peu plus ce chapeau des poursuivants? C'est-à-dire, on est sur des équipes qui, si elles retrouvent, tu parlais d'équipes en fin de cycle, si elles retrouvent le mojo ou si elles continuent leur progression, pourraient se mêler à la lutte. C'est ça?
Ouais, c'est ça exactement. Équipe qui peut être sur un fin de cycle, mais est-ce que le fin de, ils peuvent repousser un petit peu ce fin de cycle? Je pense aux Falcons. Est-ce que équipes qui peuvent peut-être se réinventer rapidement? Là, t'as les Rams et les Vikings, notamment, je trouve, et les Cardinals.
Alors,
qui sont difficilement plaçables, je trouve.
Eh ben, tu as cité les quatre équipes dans ce chapeau. Falcons, Rams, Vikings, Cardinals. Allez, on va commencer par la sensation de l'intersaison. Les Cardinals. T'as un peu du mal à les placer, tiens. Parle-nous de ça, justement.
Ouais. Auteur du meilleur trade de tous les temps.
Ah, carrément.
C'est-à-dire que tu récupères un top 5 receveur, tu te libères d'un contrat horrible. Ça devrait pas être possible, genre. Ça devrait. Mais c'est la hype, c'est ce qui se fait depuis 5 ans en NFL. L'année 2, du coup, du QB sélectionné au premier tour, après une belle première saison, on l'arme autour, on investit en défense, Isaiah Simmons, même Devondre Campbell. Toute acquisition défensive sera une aide par rapport à l'année passée. Du côté des.
Même Logan Ryan.
Même. Ils ont signé Logan Ryan?
Non. Mais même s'ils signaient Logan Ryan, ce serait une.
Voilà. De la progression inhérente. Parce qu'ils avaient drafté d'autres joueurs en défense l'an passé qui doivent progresser. Il y a toujours Buda Baker, Pat Pitt, qui est peut-être plus un QB, un corner top 3, mais qui reste un joueur très solide à une position forte, un joueur solide. Et. En fait, ça va dépendre de Kyler Murray. Si Kyler Murray, t'en as qui disent qu'il va faire une saison digne top 5 MVP, bah, s'il fait une saison top 5 MVP, et ben, même en étant dans une division très difficile, ils vont réussir à gratter des matchs.
Alors, t'as dit pas mal de choses, c'est vrai, je te rejoins sur la défense. Moi, ce qui m'a, j'avoue que les Cardinals, pour un peu faire mon vilain petit canard, j'ai limite hésité à les mettre dans le queue de peloton. Mais non. Je vais rejoindre ce qui est dit souvent par rapport à certains analystes NFL, c'est qu'on est souvent un peu un an trop tôt dans la hype. Par exemple, on parle souvent de cette attaque incroyable. Ok, Kyler Murray qui a fait Corian Murray. Qui a fait une saison rookie vraiment solide et avec Cliff Kingsbury, tu vois que ça clique et c'est sûr que la deuxième saison est super excitante. Alors après, je vais pas encore casser et jeter par la fenêtre les totems, mais Larry Fitzgerald, c'est plus prime Larry Fitzgerald, je veux dire. C'est-à-dire que
Non.
autant je pense que c'est super important pour un jeune quarterback parce que tu te dis le mec, tu lui lances la balle, elle sera attrapée. Autant, c'est pas là, c'est pas. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Alors bien sûr, DeAndre Hopkins, je suis dans le train Hopkins depuis la première heure, donc forcément que je vais pas dire que c'est pas le mec va pas totalement transfigurer cette attaque. Il va le faire selon moi. Mais je pense qu'en fait, on se pavane peut-être un peu trop sur les cibles de la fameuse attaque incroyable. Même si c'est un corps de receveur très très fort. Moi, c'est encore une fois la peur de cette défense, parce que si on dit, tu l'as dit, on peut même partir de ce postulat-là. Kyler Murray joue comme un top 5 MVP, ils ont une attaque top 5. Il faut que la défense soit où pour qu'il soit crédible? Il faut que la défense soit dans la première moitié de la NFL? Un petit peu.
Entre 15 et 20,
Je suis même pas. Parce que, tu vois, Isaiah Simmons, il est bien gentil, tu l'as dit, il y a eu des joueurs draftés, etc. Mais Isaiah Simmons, il peut jouer partout, mais il n'y a pas 12 Isaiah Simmons.
ouais.
Enfin.
Non. Puis il faut, s'il joue partout, il faut aussi qu'il soit élite à quelque chose, ça sera déjà excellent, tu vois.
Totalement. Ça, on sait, on en parlera peut-être un jour. On sait que c'est une de tes préoccupations avec les joueurs un petit peu couteau suisse comme ça.
Ouais.
Je me dis juste, il faut leur laisser un peu de temps. Je pense qu'il y a les bonnes pièces. Peut-être une autre intersaison où on va aller rajouter de la ligne, une autre intersaison où on va aller compléter un peu cette défense. Et là, oui, à l'intersaison 2021, je vous dirais, ok, les Cardinals. Je crois en eux comme un potentiel épouvantail en NFC. Mais là, j'ai juste l'impression que c'est trop tôt, quoi.
Ouais, c'est tôt. Après, ça suit les modèles. T'as eu des équipes en année 2 de contrat rookie QB qui ont réussi à le faire. Donc après, les situations sont bien différentes. La défense n'est pas la même que celle des Ravens, par exemple. Là, la défense est pas et pas, Kyler Murray est fort, mais c'est pas Patrick Mahomes. Et donc c'est un petit peu pour ça, je pense qu'il faut un petit peu tempérer tout ce qui est du côté des Cardinals. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être fun à jouer. Chiant à jouer, c'était déjà chiant à jouer l'an passé, hein. Je
Ouais,
me
sur
rappelle
la
d'un match en
fin,
début de saison, même contre les Ravens en début de saison, un match,
ouais.
ils peuvent embêter, ils ont embêté les 49ers aussi, dans un match du jeudi
Bon,
soir. Et après,
on parlait des Lions, le match d'ouverture, il va en prolongation, etc. C'est un casse-tête pour les Lions.
ouais, ils sont à moins 14 et puis Murray les ramène, donc ouais, ils sont chiants. Après, ça va être voilà la progression du deuxième receveur. Christian Kirk, Andy Isabella, sur qui ils ont investi un deuxième tour l'an passé. Voilà. Dans un système qui s'appelle une R-Red, où, bah, en personnel 10, quoi. Toujours 4 receveurs, un running back. Il faut que sachant que Fitzgerald sera dans le slot et Hopkins un peu partout, bah, il faut qu'il y ait 2 autres receveurs qui soient quand même des cibles sûres pour Kyler Murray. Et voilà.
Ouais, mais totalement ce que t'as dit. Puis même la division, enfin c'est n'importe quoi cette division.
Oui.
T'as quatre équipes qui peuvent potentiellement être en playoff. C'est-à-dire c'est quand même incroyable ça. Il y a aucune division, même dans l'histoire. Enfin, j'ai pas sensation dans l'histoire récente d'avoir vu une division. Tu peux te dire que quatre équipes. Non, j'irai même plus loin. Pas seulement quatre équipes peuvent aller. Peut-être que allez, je m'enflamme. J'ai cassé les Cardinals et maintenant je m'enflamme, mais. Ces quatre équipes qui peuvent peut-être faire un petit peu de bruit en playoff. C'est rare d'avoir ça. C'est très 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 rare d'avoir
Super
ça.
rare. Ouais, super rare.
Donc à voir si ça va pas les plomber
Ouais,
et.
tu pouvais t'avais aussi ça dans la AFC Sud, mais c'était parce qu'en fait personne n'était bon
Ouais, c'est ça,
à
tu vois.
l'ancienne.
Ah, un petit truc qui pourrait jouer contre les Cardinals, tu vois. C'est ça, et puis c'est surtout. on en parlait par rapport à la AFC. En NFC, t'as des clients qu'il faut passer dans le groupe des favoris. C'est des vrais clients, tu vois. Bien sûr, j'ai pinaillé sur toutes ces équipes, mais il faut aller se les farcir, les Cowboys, les Eagles, les Packers, etc. C'est des vrais clients. Ce qui pourrait d'ailleurs être un avantage, parce que peut-être que les Cardinals seront une bonne équipe cette année, mais du fait de leur division et de la conférence, vont pas avoir un bon bilan, donc vont pouvoir se renforcer mieux grâce à la draft, etc. Donc ça peut avoir un bon aspect pour eux. Alan, je pense que c'est un peu logique, à part si tu as quelque chose à rajouter. On reste
Non, non, je t'en prie.
dans la même division. On va parler des Los Angeles Rams. Équipe fascinante quand même.
Pire maillot.
Ah, je trouve qu'ils se sont fait un peu descendre juste parce que c'était. J'ai l'impression que personne n'est jamais content des maillots qui sortent.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il y a des
Honnêtement.
trucs un peu bizarres dessus.
Honnêtement. Tu vois, on est aussi fan de NBA, je peux te dire qu'il y a des quand même des. Il y a des trucs horribles qui sortent en NBA. Je trouve que là, niveau NFL, ils sont un petit peu moins. Ils sont.
C'est pas. Ouais, c'est pas
Ouais, tu
bon.
vois.
C'est pas bon.
Ils respectent un peu plus. Bon, peut-être parce qu'il y a moins de maillots dans l'état, mais bref, passons. Ouais, les Rams, je disais. Équipe fascinante parce que t'as l'impression que leur destin se joue sur quoi? Sur 12 jambes? C'est-à-dire qu'en gros, ils ont 6 joueurs et si un tombe, c'est fini?
Ouais. C'est une prise de risque folle, quoi. Ce qu'ils ont fait. Des erreurs. Alors, au moins, eux, quand ils font une erreur, ils l'assument très vite, hein.
Ah bah.
C'est-à-dire, Todd Gurley, ça a été très vite assumé, hein, c'est-à-dire que on te veut plus et t'es plus là. Moi, je les mets dans les poursuivants parce que Sean McVay. L'an passé, ils sont pas bons, ils gagnent 7 matchs, 8 matchs? Non, non, ils sont limite, ils gagnent 9 matchs, non? 9-7?
Non, 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 je crois qu'ils finissent à 8. Alors, recherche en direct, mais je
8.
crois qu'ils finissent à 8.
Ouais, ils sont soit en 8-8, soit en 9-7. Avec un Jared Goff en régression, Todd Gurley plus à son niveau, qui est
9-7, non, t'as
blessé.
raison,
Ouais, tu vois,
9-7, 9-7. Ouais, parce qu'ils ont le problème d'être dans une division où les deux sont à plus de 10, les deux autres. Donc, ouais.
Ouais, il gagne 9 matchs quoi. Il gagne 9 matchs et franchement, c'est parce que c'est le job de Sean McVay. C'est le job de Sean
Je te
McVay.
coupe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ce que beaucoup ont dit, le début de saison un peu poussif, c'est la faute de McVay qui avait été un petit peu, voilà, la matrice McVay qui avait été déconstruite par Belichick et du coup, il
Ouais.
n'a pas su se réinventer. Il y a eu beaucoup cette
Sur le début,
narrative-là
ouais.
sur le début.
Sur le début, ce qui sort, c'est qu'il a un peu changé sur la fin de saison et que là, il a beaucoup travaillé dans l'intersaison. Comment changer un petit peu son attaque? Changer, parce que c'est vrai que l'attaque de McVay, en termes de personnel, c'est toujours la même chose. C'est trois receveurs, un running back, un tight end, beaucoup de formations resserrées, collées, où ça part un peu de partout, la balle sort vite, tout ça. C'est vrai que si tu comprends ça, tu peux plus facilement te défendre. En fait, il a aussi pour moi régressé, et c'est la défense a un peu régressé. En fait, ils ont perdu des joueurs, ils avaient perdu Sue, là ils ont perdu Fowler en plus. Ils ont perdu Corey Littleton au printemps aussi. Jalen Ramsey est venu. Ils ont perdu Aqib Talib, Marcus Peters. Ils avaient perdu Lamarcus Joyner aussi.
Bon,
Voilà, c'est des choix qui ont été faits.
avec tout ce qu'ils perdent, tu fais une défense de pro bowler. C'est
Ouais. Tu vois, ils ont perdu beaucoup de joueurs qui font que il y a besoin que. Et en même temps, ils ont pour améliorer le niveau de l'équipe, ils ont pas lancé des premiers tours pour des joueurs. Déjà là. C'est-à-dire que ils ont pas récupéré assez de joueurs qu'ils en ont perdu. Et là où ils auraient dû avoir des premiers tours ou des deuxièmes tours pour essayer de drafter pour remplacer, bah là ils n'en ont pas trop eu. Ils en ont drafté un peu, ils en ont des joueurs, mais la défense, elle a pris un coup. Donc la défense a pris un coup en termes de personnel et Jared Goff était pas bon, tout simplement.
Ouais, enfin, on l'a dit, ça vient tout simplement du fait que ils ont re-signé très cher d'Aaron Donald, des Jared Goff, il y a eu Gurley qui a été depuis limogé, il y avait
Contrat à Cooks.
Cooks, etc. Ce qui fait que bah au bout d'un moment, c'est un peu une gestion de quelqu'un qui sait pas jouer à Madden et qui du coup se retrouve avec 5 joueurs surpayés et ensuite c'est un peu la Bérézina. Ils ont retrouvé Michael Brockers aussi qui aurait
Oui,
dû
c'est vrai.
signer aux Ravens, qui ne l'a pas fait. Question au niveau de sa cheville, etc. Et du coup, il revient. À quel point il peut revenir? Enfin, tu vois, cette question se pose. Parce que s'il n'a pas signé aux Ravens, est-ce qu'il est vraiment. Enfin, bref. Ouais, moi, je trouve vraiment les Rams fascinants parce que. C'est, je pense, c'est probablement l'équipe pour laquelle le boulot de coaching est le plus important. Parce que tu vas devoir vraiment faire fonctionner des. Enfin, je veux dire, dans l'unité offensive comme défensive, surtout défensive, je pense que passer les 5 joueurs sûrs, 5-6 joueurs sûrs, tu vas devoir faire vraiment travailler. Par exemple, Ebukam, tu vois, qui était une bonne surprise, il va avoir un rôle déterminant cette année.
Ouais,
Déterminant.
puis sur ouais.
Et donc, tu te dis, le costume va pas être trop grand pour lui? Enfin, c'est incroyable. Tu vois, t'as investi tant dans Ramsey. D'ailleurs, Ramsey, j'aimerais bien un peu redorer son blason, qui est incroyable comme corner. Il faut quand même, c'est pas parce que le mec a la plus grande gueule de Californie, alors que c'est le même état où il y a Richard Sherman, ce qui est une performance en soi, il faut pas pour autant le critiquer. C'est un corner incroyable.
Élite, ouais.
Mais, tu l'as dit. On est en 2020. Tu paries pas sur un shutdown corner, tu paries sur 3-4 corners. Donc, ils ont perdu. Je sais jamais dans quel sens mettre son nom. Nickel Robbie Coleman,
Robbie Coleman.
dont on a parlé du côté des Eagles, qui était un très bon. Alors, bien sûr, on se souvient son action
Slot.
contre les Saints, mais c'est un très bon slot corner. Ouais, je te l'ai dit, ça joue sur 12 jambes, en fait. Bon, il y en a deux qui sont celles d'Aaron Donald, c'est un peu rassurant. Mais.
Ouais, c'est ça.
Ça joue comme c'est alors c'est une expression c'est un anglicisme mais c'est j'ai pas souvenir d'une équipe aussi top heavy c'est-à-dire qui se base vraiment sur de
Ah non,
énormes
non.
individualités et j'ai peur que dans ce mix-là Jared Goff il ait pas les épaules alors c'est encore un débat qu'on a sans fin mais tu vois est-ce que il situe où le allez on va conclure les Rams là-dessus Alan le vrai Jared Goff c'est lequel on a eu trois Jared Goff différents là on a eu celui fantomatique, catastrophique de sa saison rookie. On a
Jeff
eu,
Fisher.
ouais, Jeff Fisher. Bon, on a eu celui qui va au Super Bowl et qui est un petit peu en difficulté au Super Bowl. Puis on a eu celui de l'année dernière qui a quoi, qui vacille entre les deux. C'est ça le vrai Jared Goff? C'est celui de 2019-2020?
Je pense, j'espère pour les Rams que c'est celui entre celui de l'année Super Bowl et celui de l'année passée. C'est-à-dire entre 10 et 15. Mais
Je suis assez d'accord.
ouais. Mais tu vois, juste pour rebondir, après on termine, ils se retrouvent dans la situation, ils sont obligés à la free agency de tenter des paris maintenant. Sur des contrats, ils sont obligés, genre Leonard Floyd par exemple. Ils sont
C'est
obligés
du
de
beau
prendre,
Paris, ça.
tu vois, ils sont obligés de prendre des mecs draftés au premier tour qui n'ont pas de second contrat. Et juste sur le talent intrinsèque du mec, obligé de se dire, bah, il faut que ça marche. Ils n'ont pas l'argent pour faire autre chose. Et les choix de draft. Donc ils se retrouvent à faire ça. Et ça peut poser problème.
Après avoir, il y a du talent. Il y a quand même Madve, faut pas le mettre, faut pas le
Non.
jeter, tu vois, faut pas le jeter dans
Faut
les égouts. Hein,
l'enterrer.
c'est quand même le mec. Moi, je vends tout ce que j'ai. Non, j'ai Greg Roman, je vais pas me plaindre. Mais c'est quand même un play caller incroyable. Mais c'est vrai que tu te dis, là c'est limite. J'ai l'impression que les Rams par les deux terrain coaching, c'est en leur défaveur parce que c'est au-dessus le problème qui s'est posé. C'est le front office en fait qui a un petit peu qui a pas géré tu vois.
Gestion. Je
C'est
suis d'accord.
à ce niveau-là.
Et ils sont dans la division la plus dure. Ils ne seraient pas dans cette division-là.
Ah tiens Alan, je vais t'obliger à et là tout ce qui est chronomètre, tout ce qui est temps, on oublie complètement, on est à 1h40, c'est n'importe quoi. On a parlé non-stop de cette NFC West. Allez, maintenant qu'on a parlé des quatre équipes en question, tu me classes, et je te mets sur le grill là, tu me classes pour la saison prochaine, 49ers, Seahawks, Rams, Cardinals.
Seahawks, 49ers, Rams, Cardinals.
Je vais garder les Forti. Ah, c'est dur, 49ers, Seahawks. Cardinals Rams, je suis vraiment pas fan des Rams, j'ai vraiment du mal. Genre, je suis vraiment. Parce que, même tu vois, il y avait toujours cet espoir avec les Rams ces dernières années. Tu sais pas ce qui se passait avec Todd Gurley, en fait, c'était une espèce de. Un mystère total. Mais tu te disais, oh là là, si Tom Gurley revient l'année où il. Tu vois, où on parle de lui limite comme un MVP, pourquoi pas? T'as même plus cet espoir-là où tu peux t'accrocher. Donc ça. Non, ça devient quand même extrêmement compliqué. On finit ce bal des poursuivants. Allez, on va partir du côté des Vikings, tiens, des Vikings. Alan, alors, on se souvient pour les quelques personnes qui ont écouté notre mock draft que j'étais quand même été un GM temporaire atterré des Vikings, avec une équipe avec beaucoup, que j'estimais quand même avec beaucoup de besoins. T'en as pensé quoi globalement de leur intersaison? Est-ce que pour toi, ils peuvent, une équipe qui est quand même constante, hein, toujours bien placée ces dernières années, est-ce que ils sont si loin de ça de faire le petit run?
Allez, est-ce que Dalvin Cook va jouer?
Ah non, mais ça, c'est. Ça, c'est. Pour toi qui es le président du syndicat anti-running back, c'est quand même. Non, mais on va s'arrêter 2 minutes sur ça. Ce sera un podcast ultra long. Alan, comment, quand tu as vu ce qui a pu se passer du côté des Chargers, quand il y a eu un hold-out, tu peux te dire en pleine pandémie, je vais faire un hold-out alors que je suis un running back qui a fait certes une grosse saison, mais qui est tout le temps blessé. Moi, c'est à croire si ces mecs-là n'écoutent pas leur agent.
Ah non, mais c'est. Là, c'est même pas un running back ou pas, c'est juste. Qu'est-ce qu'il fait? Dans tous les cas, il joue une position qui est dévaluée financièrement. Dans tous les cas, il n'aura pas énormément d'argent par rapport à ce qu'il vaut vraiment. Parce qu'il en vaut de l'argent, c'est un très bon joueur. Hein. Mais je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Et surtout. C'est un excellent running back, je sais, mais l'année passée, quand ils avaient les deux autres à sa place, l'attaque elle allait très bien aussi. Hein. Et je pense pas que les Vikings vont craquer. Hein. Donc, Gary Kubiak, il a réussi à faire de Justin Forsett un pro bowler.
Ah ouais, ça. Tour de force.
Voilà, tour de force, on s'en rappelle. Bref, effectif qui, à cause de l'investissement énorme sur Kirk Cousins, du contrat un peu raté sur Xavier Rhodes, qui n'est plus dans l'effectif d'ailleurs, et du fait qu'Anthony Barr a décidé de ne pas aller aux Jets mais de revenir aux Vikings, et ben effectif qui a dû se réinventer parce que pas assez d'argent en fait. Donc bye bye Trey Waynes,
Bye bye
Anthony
Mackenzie
Rice,
Alexander. J'attends, je passe juste ça parce que j'adore Mackenzie Alexander.
les deux ont été à Cincinnati d'ailleurs. Mackenzie Alexander, bye bye Everson Griffin, bye bye Stephon Diggs. Parce que voilà. Et donc, on se retrouve. Anthony Harris, le tag. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Un très bon safety. Avec Harrison Smith, peut-être un des tout meilleurs tandems de la ligue à cette position-là. Ils ont drafté trois corners assez tôt. Un receveur pour remplacer Stephon Diggs. Il faut tout de suite que ça marche. Kevin Stefanski, le play caller qui part, même si, comme l'avait dit Mike Zimmer, l'ombre de Gary Kubiak était très présente dans les jeux appelés par Kevin Stefanski. C'est Kubiak maintenant qui récupère un peu les rênes. Moi, je pense que, en termes d'effectifs en valeur intrinsèque, ce sera moins bon que l'année passée, qu'il y a 2 ans. Donc,
Ouais,
là, ils étaient sur 3 ans où, franchement, ils étaient avec un effectif très blindé. Et là, ils ont perdu des mecs quand même.
il pariait quand même beaucoup sur la production de leurs jeunes joueurs. C'est ça.
Joseph aussi qui est parti.
Il pariait beaucoup. Bah, cette défense, elle avait la particularité de pas avoir trop bougé pendant tout ce run. C'est ça qui est incroyable, c'est
Ouais.
que il revenait avec un effectif intact de ce côté-là du ballon, d'année après année, année après année. Et ça permettait de toujours bien performer. Bien sûr, Zimmer, c'est Zimmer, donc il a sélectionné des corner hauts. Moi, je sais pas. J'ai l'impression. Alors, on va continuer. Je sais pas pourquoi. Je comptais pas faire ça, mais on va continuer sur la métaphore cycliste. J'ai l'impression que pour moi, les Vikings, ils sont dans ce groupe des poursuivants, mais ils sont au taquet. C'est-à-dire qu'ils sont pas en mesure de placer une attaque. Ils sont juste. En fait, si j'explique un peu ma métaphore, c'est que ils avaient des trous. Ils y ont répondu à travers la draft en investissant énormément avec la draft. Mais le problème, c'est que la draft, ça paye pas maintenant. Ça va pas payer en année 1. Et pour moi, il y a certaines problématiques qui, du coup, vu qu'ils ont plus que s'améliorer, ils ont répondu aux besoins, il y a des problématiques qui se posent toujours. Par exemple, le corps de receveur reste, selon moi, beaucoup trop incliné vers des gros joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que
Totalement.
on avait le duo
Tylen.
Thielen, merci, trou de mémoire, ça doit être les 2 heures qui s'approchent. Diggs-Thielen, maintenant on est sur un Tillian Jefferson, on espère pour les fans des Vikings que Jefferson pourra ne serait-ce qu'être 50% de ce que pouvait être Stephon Diggs, mais il reste toujours la question de qui derrière. En plus, si
Le
t'as,
troisième. Ouais.
ouais, qui est le troisième, si t'as Dalvin Cook qui fait son hold-out, alors certes, Gary Kubiak peut faire performer n'importe qui, mais on va dire que les bons matchs de Dalvin Cook aidaient quand même largement Kirk Cousins. Bref, pour
Ah oui.
moi, c'est un vrai. J'ai. On va dire que c'est une équipe. Pour moi, elle va faire entre. Elle va faire. Allez. Elle va être entre 6 et 9. Et j'ai extrêmement de mal à la voir plus bas ou plus haut.
Je suis d'accord. Trop de trous dans l'effectif et Zimmer va coacher super bien ces mecs-là, ces jeunes, mais ça sera pas assez en fait, tout de suite. Ce sera pas assez tout de suite pour moi. Donc ça sera, c'est-à-dire que ils ont perdu leurs trois corners titulaires.
C'est incroyable ça.
Et aussi, je sais que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est pas très connu, Jerrion Curse, qui était un gros safety pour s'occuper des gros tight ends. Ils l'ont plus. Il est à Détroit. Donc trois corners titulaires plus un joueur qui s'occupait un peu des safeties, comment tu vas remplacer? Ils ont drafté deux gars, tu peux pas les insérer tout de suite et penser qu'ils vont avoir un niveau average NFL plus d'emblée, c'est compliqué. Donc dans 2022 peut-être, mais en 2022, il y aura peut-être plus Rick Kendricks, il y aura peut-être plus Kirk Cousins, il y aura peut-être plus Adam Thielen, même si je pense que ça devrait le faire, et donc c'est problématique.
Totalement, totalement. Et puis on va conclure. Dernière équipe. C'est une équipe dont on avait un petit peu déjà parlé, hein, mais les Falcons, je
Ouais.
m'en rappelle les avoir eus notamment à la mock draft. Les Falcons, moi, je l'ai un peu dit, j'en ai un peu marre que tous les ans, les Falcons soient annoncés. L'effectif est trop juste en défense, selon moi, se base trop sur des individualités. Certes, Grady Jarrett est un excellentissime lineman défensif. Ils ont ramené Dante Fowler, mais ça reste très light, je trouve, sur le reste de la ligne défensive. Tacarez McKinley est très proche du bust, hein, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Derrière, ils ont perdu Trufant, qui était déjà, qui avait perdu son niveau. Isaiah Oliver avait fait une bonne fin de saison, mais bref, la défense m'inquiète. Il y a toujours Deion Jones, qui est un excellent linebacker, mais qui est quand même sujet aux
Blessé,
blessures.
comme
Keanu
Ken Neal.
Neal
Ouais.
blessé. Les seuls talents sont sujets aux blessures. Offensivement, certes, ça restera toujours solide. Parce qu'ils ont Julio Jones, parce qu'ils ont Calvin Ridley, parce qu'ils ont Matt Ryan. Mais j'en ai marre de croire en cette équipe. Je suis désolé pour les fans des Falcons qui nous écoutent. Parce que je pense que vraiment, c'est une équipe. C'est en l'occurrence, c'est une équipe qui aurait dû comprendre que le nouveau cycle, c'était il y a 1 ou 2 ans. Par exemple, Dan Quinn qui reste, c'est pas possible.
Oui, non, mais t'as tout dit, on en a parlé en plus. Je pense pas qu'on a besoin de repasser. Des drafts ratés, surtout défensivement, des joueurs sujets aux blessures, une attaque qui reste bonne, une ligne par contre qui est pas toujours exceptionnelle. Et sept premiers choix de draft signés au printemps. Dans une division où il y a les Saints, les Buccaneers. Voilà, je pense que ça sera un petit peu juste. Ça sera une saison Falcons 8-8, ou 7-9, ou 9-7.
Et tu penses qu'ils, du coup, là, cette fois-ci, disent au revoir à Dan Quinn?
Oh, s'ils sont en 9-7, je suis pas sûr.
Moi,
Alors que
non.
c'est peut-être ce qu'il faudrait faire.
Il va pas faire ça tous les ans. Enfin, ça fait 2 ans, les Falcons démarrent mal, font une grosse fin de
Ils
saison, ils
gagnent
sauvent sa
5,
tête.
ouais, exactement. Ouais. Et puis à côté de ça, ils ont pas aussi un choix de top 10 qui peut-être peut changer la franchise. Donc... Ouais,
Ouais.
non, je sais pas. Moi je pense que oui, je pense que c'est la dernière Dan Quinn, mais.
Ok. Eh ben, c'est sur ça qu'on finit ce. J'avais fait cette blague après l'épisode 3, je crois, c'est que nos épisodes allaient crescendo. On va essayer de pas faire crescendo plus de 2 heures, Alan, la prochaine
Non,
fois, quand même.
on va
On va
essayer.
essayer de se limiter. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce podcast, donc qui a couronné les Seahawks comme plus grand danger pour les 49ers et pour les Saints. D'ailleurs, on notera d'ailleurs que tu as placé même les Seahawks devant les 49ers dans ton classement de
Ouais.
la NFC West. On vous invite à réagir avec nous sur les réseaux sociaux, sur @ le safety podcast, @ je ne connais pas, @ Alan, ou non, @ star de YouTube, envergure, sur @
Alan tiré du bac du 96.
Wow.
96, la meilleure année du sang
Meilleure
régné, bien
année du
sûr.
monde, meilleur millésime.
Exactement.
Voilà. @ Benjamin Ringuet, voilà, vous nous retrouvez, on sera tagué, etc. Peut-être qu'on sera un peu plus réactif avec nos comptes personnels. On vous invite à réagir, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à pas trop nous insulter, surtout moi, parce que je crois que j'étais piquant avec un peu tout le monde. On se retrouve, Alan, dans 2 semaines. Alors, on a eu ce petit concept-là. Maintenant, il va falloir trouver quelque chose d'autre pour la prochaine fois. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Vous pouvez, comme je l'ai dit, regarder ces petits matchs YouTube NFL. Moi, je me fais ça un petit peu en ce moment quand j'ai un petit manque et ça fait toujours du bien. Je vous l'ai dit, le Saints 49ers était vraiment incroyable. On vous invite à aller le regarder, du coup. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Salut.
Salut.